Bonjour à tous. Et c'est ça qu'on veut. Qu'est-ce que je lis dans le chat? De l'énergie, de l'amour, c'est incroyable. C'est parti. Pulboro est bien loin. J'étais en train de chercher une rediff pour bosser en parallèle. Paf! Notification, pardon pour le paf qui vient d'exploser à vos oreilles. Mupina, je suis en train de me battre pour avoir un billet au concert de BTS. BTS, c'est le diplôme. C'est le mec qui connaît rien. Mais rien ne m'empêchera de regarder Samuel. Voilà, c'est ça qu'on veut. C'est magnifique. Vous allez bien? Ça va? Passez un bon week-end? Je vois qu'il y a des Bretons dans le chat qui ça parle breton. Putain, je suis pas bilingue, moi, les gars. Ils sont falas, ils sont falas. Vous allez bien? Ça va le week-end? Pas monsieur Étienne. Bonjour, monsieur Étienne Laforme. Non! Appelle-moi DJ Paf. Comme les intimes. Mathusalem, salut. Ça se laisse la barbe de 3 jours, grandeur et décadence. Oui, on se fait, ça s'est un petit peu allé. Oui, BTS, le groupe K-pop, ouais. T'as un Camille, il me prend vraiment pour le croulant ultime, tu vois. Voilà. Hibernatus, pour les vieux qui ont la ref. Ouais. Oui, oui. Oh, putain, mais Tom Thompson aussi? Mais vous vous foutez de ma gueule, en vrai. Oui, BTS, le groupe, c'est moi qui ai inventé toute leur choré. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que leur choré, là, tu crois... Leur choré, en Corée, d'ailleurs. Incroyable. Et j'avais jamais fait le lien. Bref, donc c'est moi. Donc c'est bon quoi. Tu nous fais une démo? Là, non, pas là parce que je viens de manger. Mais sinon, j'ai été chaud en vrai. Puis ça fait longtemps, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Après, ils ont changé de comment on dit, enfin, le gars qui fait les danses quoi. Le danseur là, comment on dit, le. Ils ont de chorégraphe. Exactement. J'ai une poule perso. Draco me dit j'ai une poule. Pourquoi la poule? Qu'est-ce qui qu'elle a? Ouais. Qui de la poule et de l'œuf? Merci. Hop, hop, hop. J'ai vu Noctali en live tout à l'heure et c'est parti. Le raid de Noctali, incroyable. Merci Noctali. Demain, c'est demain le stream en salopette. Exactement. Demain, on amène sa foufourche pour ranger la papaye. Exactement. Et donc, elle a mis Bruno, le simulateur ultime, le roi de la simulation, l'homme qui simule, l'homme qui aime simuler même, qui vient nous faire découvrir Farming Simulator. Ou, selon certains, le Farming Samulator. On aime les jeux de mots pourris ici. Sauf que ici, ça ne simule pas. Donc, pas vraiment. Donc, on reste sur Farming Simulator. Voilà. T'as loué un tracteur? J'ai loué une moissonneuse batteuse. J'ai loué un tracteur. J'ai loué une grande exploitation. Tout ça sera... On fera bien sûr ce live en direct de grands champs. Voilà. Il fera nuit, on verra rien, mais c'est pas grave. Comment ça, un poule? Non, non, une poule. On dit pas, non, Draco, on dit pas un poule, on dit un coq. Draco me dit une poule, un poule. Non, non, un coq. Ouais. Draco, après tout ce que tu as fait, souffre-jour. Je vous laisse, je vous souhaite un bon stream. Passez juste faire coucou, faites le plein de bonnes nouvelles. Souffre jour, tu pourras rester avec nous. Annule, annule. Qu'est-ce que t'as derrière? Quoi, ta piscine? T'as un date? T'as un rendez-vous de boulot? Qu'est-ce que t'as? Annule, souffre jour. Annule. Nul. Qu'est-ce que t'as? Rien. Qu'est-ce qui pourrait être plus important qu'une une petite après-midi de revue de presse de bonnes nouvelles? Si c'est pas un mariage, ça mérite annulation. Mais même un mariage. Attends, tu peux te marier un autre jour. Hein? Hâte de la sortie du matinal Étienne Simulator. Faire des blagues, troller les grognons du chat. J'adore. Il y a Pulboro. Voilà Pulboro qui donne l'exemple. Voilà, heureusement qu'il y a des gens un petit peu qui ont un peu de tenue hein, dans ce monde, hein, qui ont des guidelines, comme disent les jeunes. Qu'est-ce que me dit l'ami Pulboro? Regarde-moi, ma femme a des contractions, je suis là. Voilà. Hein. Voilà. Il faut savoir, dans la vie, c'est l'un des secrets de l'équilibre et du bonheur, il faut savoir mettre des priorités. Ben. Le bébé, il a toute sa vie devant toi, hein, devant lui. Qui m'écrit? Rien n'empêche de regarder le live hier, je te regardais en cours de marketing. Ben oui, ben voilà. Non, encore et de rien, celle-là, elle est too much, celle-là. Non, elle est trop hardcore, cette vanne. Ah non, je peux pas, ça pas les mamans. Non, celle-là, elle est trop hardcore, je peux pas. Non, Jeanne, ça, je peux pas, celle-là. Elle est trop dure. Elle est trop hardcore. Je vous la lis pas, je peux pas vous la lire, j'ai les yeux qui vont tomber sur le clavier. Ah non, mais je vais m'étouffer avec vos conneries. Bon, comment ça va, la vie, la santé, les amours, caliente ou pas? La santé, j'ai déjà dit. La santé, je vous l'ai demandé, je sais plus. Et la santé, très important, et surtout la santé. Le travail, la santé, ça j'oublie toujours, très important. Aucun des trois? Oh, la régalade, Original Pimousse, mon pauvre. J'ai passé le code hier. Bravo. Bravo, mais puis là, bravo pour le code. Gastro, donc pas de santé. Oh oui, la gastro, elle est là. Les petits virus à l'école de mes enfants, là, il y a aussi. On fait aller un peu tout. Pas de travail le samedi, pitié. Le travail, c'est pas la santé, sûrement pas. J'ai trouvé mon stage de fin d'études, je suis content. Bravo, Teams. J'ai perdu un morceau. J'ai perdu. Quoi? Ariette, j'ai perdu un morceau de dent. Merci la grossesse, j'ai mal. Mais quel est le lien entre tous ces mots? Indépendamment, j'arrive à les comprendre, mais. J'ai perdu un morceau de dent. Ok. Bon. Je me dis choc, réverbère. Paf. Chute. Voilà. Merci la grossesse. Que quoi? Oui, voilà. J'ai mal. C'est-à-dire que. Qu'est-ce qui se passe? C'est. Ariette, vous n'êtes pas au courant? C'est hyper courant. Enceinte. De perdre des dents? Ah, mais maintenant que tu le dis. Alors, maintenant que tu le dis, souvent, j'ai remarqué ça. Souvent, quand je croise des femmes enceintes, à Paris, que je vis à Paris, eh bien, j'ai remarqué que souvent, elles n'ont pas de dents. Elles n'ont plus de dents. C'est vrai? Eh oui, maintenant. Mais j'avais jamais. Incroyable. Non, ça, pas, non, en vrai, c'est une info que je n'avais pas, ça. Ah ouais? Qui me dit quoi? Les femmes ont un déficit en calcium pendant la grossesse, de nombreuses femmes perdent plusieurs dents. Ah bon? Moi, j'ai jamais dit ça, moi. Comment ça se fait? Ça ferait par le mariage, Tom Thompson, bravo. C'est qui l'agriculteur beau gosse à gauche sur l'affiche? Je ne vous dirai pas, mais effectivement, c'est un beau gosse. On est d'accord. Oui, que des bonnes nouvelles. Je cherche mon identifiant. Que des bonnes nouvelles. Cheveux et dents. On perd. Attends. Cheveux et dents, les femmes enceintes perdent leurs cheveux, leurs dents? Waouh! Ah ouais. Donc, comme demande Cory Doriens, quand un ancien président, François Hollande, on va pas le citer, parlait des sans-dents, il parlait peut-être des femmes enceintes. Comment ça, leur virginité aussi? Ah non, non, ça m'étonnerait. Je vois pas le lien entre virginité et le fait d'être enceinte. T'es pas obligé de perdre ta virginité. Mais madame, je vous jure, madame, faut avoir la ref. Hein. Madame, je vous jure, j'ai jamais fait l'amour avec un garçon. Faut avoir la ref. On va essayer de la trouver pour les plus jeunes. Est-ce que tu as réussi à trouver des bonnes nouvelles cette semaine? Un petit peu, madame. Arrêtez de jurer, Marie-Thérèse. Madame, je vous jure. Madame, je vous jure. C'est une rêve de l'amour et dans le pré. Non, la vie est un long fleuve tranquille. N'importe quoi. Marie-Thérèse, je vous jure, madame, voilà. La vie est un long fleuve tranquille, voilà.
Mais enfin.
Bref, c'est la dame de maison, la bonne, comme on disait dans certains milieux bourgeois, qui est enceinte, voilà, et qui. L'avoue à la patronne. Et c'est l'échange est surréaliste. Je vous le mets. Tchac. Tchac, c'est un vieux film. Benoît Magimel avait 12 ans dans ce film. Exactement, bravo. Hop. Il crève l'écran, d'ailleurs.
Mais enfin, Marie-Thérèse, comment avez-vous pu rester 5 mois sans me dire la vérité? Je voyais bien que votre ventre s'arrondissait.
Mais madame, je vous jure que j'ai jamais couché avec un garçon.
C'est ça. Tout. Oh, vous avez pas. Oh merde, je vous ai pas mis la scène. Oh pardon, pardon, pardon. Je vous ai pas mis la scène. Attends. Et je suis en train de dire. Oh, c'est merveilleux, c'est incroyable. Voilà. Excusez-moi. Je vous la remets. C'est mythique, mythique, mythique.
Mais enfin, Marie-Thérèse, comment avez-vous pu rester 5 mois sans me dire la vérité? Je voyais bien que votre ventre s'arrondissait.
Mais madame, je vous jure que j'ai jamais couché avec un garçon.
Marie-Thérèse, ne jurez pas, je vous en prie.
Mais madame.
Marie-Thérèse, rappelez-vous, Vous êtes bien sortie une fois avec un garçon.
Mais non, madame, je vous jure que j'ai jamais sorti avec un garçon. Je ne sors jamais avec les garçons.
Marie-Thérèse, ne jurez pas. Marie-Thérèse, vous êtes bien allée au bal un soir.
Mais non, madame, je vous jure, je ne vais jamais au bal.
Arrêtez de jurer, Marie-Thérèse. Ils vous ont peut-être fait boire.
Grippe. Je ne bois jamais.
Mais enfin, Marie-Thérèse.
C'est génial.
C'est impossible.
Mais si, Marie.
Mais madame, je vous jure.
Non.
Que j'attends un bébé. Ça, c'est sûr. Mais que je n'ai jamais couché avec un garçon.
Elle en peut plus. Est-ce qu'il parle de Marie
Bon, Marie-Thérèse, rentrez chez vous. J'ai déjà assez de soucis comme ça en ce moment. Ça va en plus à supporter vos mensonges.
La pauvre, la pauvre. Dans mon souvenir, ça parlait de Marie, la maman de Jésus, quoi. Parce que Marie, la maman de Jésus, elle n'est jamais allée au bal non plus, hein, si on en croit le livre. Donc voilà, c'est. Voilà, madame, je vous jure, d'où la question que je pose. Et merci Fabricadon pour le raid. Bon, et quid, elle est enceinte vraiment ou pas? Mais Fab, tu n'écoutes pas, Fab. Fab dit, bon, et quid, elle est enceinte vraiment ou pas? Mais tu n'écoutes pas, quid. Fab, tu n'écoutes pas. Elle vient de dire, je vous jure, je suis enceinte, ça c'est sûr, et j'ai jamais couché avec un garçon. Fab, qu'est-ce que tu n'écoutes pas, Fab? C'est pas possible, hein. Ah, bon, arrête de jurer ça. Non mais, enfin. Elle vient de le dire. Vous n'êtes pas concentré, hein. Alors après, moi je lis des articles, et puis oui, alors, est-ce qu'on peut... Mais je viens de le lire. On s'est pas fait l'échauffement. On a oublié l'échauffement. Bah, on a oublié l'échauffement. Ok. Allez, un petit échauffement musculaire avant de se claquer un truc. Merci beaucoup, j'ai failli oublier. Un petit échauffement sur YMCA pour éviter de se claquer un truc, un tendon, un muscle pendant la revue de presse, parce que voilà, c'est un exercice de haute voltige. Ok, tout le monde est chaud. Alors on fait tourner les poignets, hop, les épaules, c'est parti. Par contre, faut suivre la Corée, hein. Faut suivre la Corée. La Corée du Sud, bien sûr. Ah, ça fait du bien. Ça, c'est bien, c'est important, c'est pour éviter de se claquer un truc. Ah, quelqu'un me demandait, c'est de l'IA. Non, pour le coup, c'est des vraies scènes du président américain Donald Trump qui, dans sa des meetings, rien n'est inventé là-dedans. C'est vrai. Avec Trump, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a rien besoin d'inventer, il suffit de se pencher et de ramasser. C'est ça qui est formidable. Vous êtes chaud? On peut partir sur l'actu? For sure! Que je branche ma tablette, moi. Alors, vous savez, le samedi, c'est spécial. Hein. For sure. C'est un peu cloquant. C'est un peu violent comme échauffement proche du claquage. Le samedi, c'est particulier. Qu'est-ce qu'on fait le samedi? Peut-être enlever le visuel. Moi, ça me plaît, là. Hop. Et peut-être mettre le sommeil. Hein. Qu'est-ce qu'on fait le samedi? Le samedi, qu'est-ce qu'on fait? Les good news. Exactement. Lundi... L'actu sur cette chaîne tous les jours, hein, le matin, sur Twitch, en replay sur YouTube, en replay sur toutes les plateformes de podcast, dès 15-16 heures tous les jours. Le mardi, pareil. Mercredi, devinez, pareil. Jeudi, pareil. 9h, 12h, 10h, 13h, ça dépend. Vendredi, hein, pareil, tous les jours. Eh ouais, tous les jours. Ici, c'est rigoureux, c'est carré. Qu'est-ce qu'on... Voilà. Et de temps en temps, dans l'actu, il y a un peu des mauvaises nouvelles, quoi. Voilà. Notamment avec le monsieur qu'on vient de voir à l'instant, là, qui... Comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit avec la commu? Le samedi, les bonnes nouvelles. Le samedi, je vous délivre, voilà, à la maison, directement chez vous, les bonnes nouvelles, ce qui me semble être des bonnes nouvelles positives ou qui vont un petit peu nous changer les idées que j'ai glanées. Qu'est-ce que c'est que ce raid de fou ? Oh, Jardistream, merci. Les amis, Jardistream, la chaîne du jardinier passionné, vous savez qu'on aime bien aller voir, nous, ici, voilà, hein, le potager, les j'y connais rien, je veux dire n'importe quoi, je suis nul, j'ai pas la main verte, les fruits, les légumes, les plantes, enfin tout ça, quoi. C'est une chaîne que j'aime beaucoup, vous le savez, c'est Jardistream, et tu viens de nous raid. Merci beaucoup, on ramène des bonnes ondes. Ah bah oui, je sais. Il me semble que tu as des tomates à récupérer. Ah oui, attends, c'est ça. Il y a une tomate qui s'appelle Samuel Etienne, c'est ça ? Les modos, vous auriez la gentillesse de d'épingler carrément. Bravo. C'est en haut du chat pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Oh, merci. Pour ceux qui ne connaissent pas cette chaîne que je vous recommande, voilà, qui est une chaîne Twitch animée par un passionné de la nature et de la cultivation. À mon avis, ça se dit pas. La culture plutôt. Hein. Eh bien, c'est Jardistream et j'espère que vous allez follow cette chaîne. Donc, le samedi, je le disais, c'est un peu particulier, c'est je glane. Alors, je ne glane pas les fruits, je glane les bonnes nouvelles. Voilà. Arthur, je n'avais pas le prénom de Jardistream, moi. Ah, ok. Un roi, donc. Je glane les bonnes nouvelles et j'en ai trouvé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bonnes nouvelles. Ou nouvelles, en tout cas, qui vont un petit peu nous changer les idées, quoi. Merci, Arthur, du coup. 7. Il y en a qui sont franchement des bonnes nouvelles et d'autres qui sont des trucs pas trop anxiogènes, quoi. Oui, on va parler du Grand Cactus, l'émission que j'adore. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. Est-ce que vous êtes curieux ? Est-ce que vous voulez savoir ? Vous voulez savoir ? Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il y a ? Jean-Louis Etienne, c'est un cousin ? Bien sûr. Bien sûr, c'est la famille. Mm. Avec Cody le Gaude, bien sûr. Bien sûr, c'est la famille. Hop. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Il y a même un article sur la fin du live. Ah non. Fin de live, c'est pas un article. C'est... Alors, comment vous le dire de façon un peu subtile ? Fin de live, c'est fin de live. C'est-à-dire que c'est la fin du live. Ben, ça n'est pas un article sur la fin du live. Parce que déjà que l'intro ici dure des plombes, si en plus tu lis chaque jour un article sur la fin du live, à la une du monde, la fin du live de Samuel Etienne. Lisons. Lancé peu avant 16h ce samedi, la revue de presse de Samuel Etienne, dite la matinée Etienne, s'est en ce week-end penchée sur les bonnes nouvelles. Tu vois, on va pas lire un article comme ça. Tu vois. Attends, tu arrêtes les lives ? Non. Non, j'arrête pas le live. Non. Non mais quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? J'ai coupé le stream ? Vous êtes parti, il n'y a plus personne ? C'est un trèfle à quatre feuilles en haut à droite du sommaire ? Je crois que c'est Boubou qui l'a rajouté. Tout à l'heure, j'ai lancé mon sommaire et j'ai vu un petit trèfle à quatre feuilles. Et je pense que c'est Boubou. C'est beau, hein ? Ouais. C'est Boubou, hein ? C'est Boubouillé là, Boubou. Ok. C'est le samedi. Trop bien. Est-ce que vous êtes prêts ? Allez, on va dire que oui. Ok ? Allez, c'est parti. On commence par le sommaire. Bonjour les amis. Un grand bienvenue. Je redis bonjour parce que hein, c'est le moment où, en général, commence cette revue de presse pour ceux qui nous écoutent en replay et notamment en podcast audio. Hein, on est samedi après-midi, ça veut dire que je pense que cette revue de presse, en général, elle est postée le jour même, mais le matin pour l'après-midi. Je pense qu'elle sera postée du coup par notre ami Vincent demain matin, dimanche, pour que vous puissiez faire quoi le dimanche ? Aller courir avec la revue de presse des bonnes nouvelles, puisque le samedi c'est la revue de presse des bonnes nouvelles. Ou je sais pas, ou jardiner, ou faire vos courses, aller au marché, voilà, ce que vous voulez. Et donc ce sera posté demain matin par Vincent. Même aller aux toilettes, évidemment. Voilà. Donc, bienvenue dans la matinée Etienne, la revue de presse. Ça fait 5 ans qu'on lit l'actu tous les jours ici, tous les matins, du lundi au vendredi, et même le samedi. Voilà. C'est en live sur Twitch, c'est en replay sur YouTube, c'est en replay sur toutes les plateformes de podcast audio. Et le samedi, c'est un peu particulier, c'est le moment des bonnes nouvelles, parce qu'il y en a marre hein, de se rouler comme des petits cochons dans la fange que nous sommes dans la lie de l'actualité des mauvaises nouvelles toute la semaine. Voilà. D'ailleurs, j'ai vu la faute à Léoline. Léoline. J'ai corrigé. Ah, quoi ? Qu'est-ce que vous dites ? J'ai fait une faute d'orthographe ? J'ai fait une faute d'orthographe ? Moi, Samuel-Étienne ? Moi ! J'avais mis éoline au lieu de éolien. Et alors ? Peut-être qu'en fait, je voulais parler de éoline, moi. Hein ? Pourquoi ? Hein ? Peut-être que j'avais un article sur éoline. Hein ? Voilà. Merci pour la correction. Donc, on va commencer par le sommaire comme d'habitude, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Alors, plutôt des bonnes nouvelles. D'abord, cet article dans Les Échos. L'éolien et le solaire dépassent les énergies fossiles en Europe. Alors, les gars, alors oui, ça va pas fort. Oui, les changements climatiques sont là. Oui, le monde ne s'adapte pas assez vite hein, pour enrayer ces changements climatiques. Mais de temps en temps, il y a quand même des infos positives. Et il est ici, l'éolien et le solaire dépassent les énergies fossiles en Europe. Les salaires, non. Hein, les salaires, pas trop. Hein. On sait que c'est pas fou de ce côté-là. Alors, j'ai beaucoup d'infos sciences et parfois dans le domaine de la santé, comme ici, regardez, le dépistage du cancer du poumon, deuxième article, fera ses premiers pas en France en mars. Je ne savais pas, moi. A priori, il n'y a pas de dépistage du cancer du poumon. C'est incroyable, ça, c'est génial. Seuls 20% des patients atteints d'un cancer du poumon sont encore en vie 5 ans. Waouh ! Après avoir été diagnostiqué. C'est un cancer hyper agressif. Car le diagnostic arrive souvent trop tard. La France, donc, lance un programme de dépistage dans 5 régions pilotes. C'est pas une bonne nouvelle, ça ? Est-ce que c'est pas une bonne nouvelle ? C'est une bonne nouvelle. Ok, ça tombe bien, vous êtes dans la matinée Étienne, la revue presse des bonnes nouvelles. Et alors là, oh, on s'est fait plaisir. Là, je vois un article dans Le Parisien, cette fois, sur des souris qui ne voyaient plus, qui avaient perdu la vue et qui l'ont retrouvée. Alors, évidemment, la question, c'est un jour, est-ce qu'on pourrait appliquer ça à des humains, tu vois ? Des gens aveugles, des gens malvoyants. Voilà. Et du coup, j'ai fait ce titre incroyable. Qui est de moi ? Qui est de ma plume ? Souris, tu vois ? Incroyable. Et là, vous me dites, mais Samuel, tu devrais écrire des sketchs, tu devrais faire un one-man show. Hein, ça remplirait l'Olympia, que dis-je, Bercy, que dis-je, le Stade de France tous les soirs pendant des années. Donc, souris, tu vois, ça me semblait plutôt intéressant. Alors, il n'est pas de ma famille, mais du coup, il m'est sympathique parce qu'il s'appelle Étienne comme moi. C'est Jean-Louis Étienne, c'est le scientifique et explorateur. Et il part pour une nouvelle mission dans l'Antarctique, à bord d'un navire un peu particulier, un bateau qui s'appelle Persévérance, en prélude d'une expédition baptisée PolarPod, hein, PP pour les intimes, hein, nom d'une plateforme océanographique mouvante habitée qui parcourra l'océan austral. Je trouve ça assez fascinant. Le mec a une énergie incroyable. Il y a des gens comme ça, ils se lèvent. Moi, déjà, j'ai du mal à me lever. Hein. L'objectif en me levant, c'est d'aller faire un café le matin, tu vois, et de me traîner jusqu'à ma première activité. Lui, il se lève et il va explorer le monde. Moi, je trouve ça classe. On lira ça. Alors, puisqu'on parle de science, là, il y a un livre qui sort sur l'histoire des sciences au féminin. Parce que l'histoire des sciences, elle s'est écrite au masculin. C'est-à-dire que les noms de scientifiques, de femmes scientifiques qui égrènent l'histoire des sciences, eh bien, ces noms ne sont pas très nombreux. Voilà. Parce qu'elles sont... D'abord, parce que justement, les sociétés sont ainsi faites qu'on n'a pas poussé les femmes ou laissé les femmes aller vers les carrières scientifiques, vous le savez. Mais aussi que quand elles y étaient, elles étaient sous-exposées. Donc on a un livre qui nous raconte ça. L'histoire des sciences est écrite au masculin. Des millénaires de découvertes de l'effet de serre à la structure de l'ADN sont pourtant le résultat de travaux de savantes et pas de savants. Et il y a un essai, un livre, qui raconte ces scientifiques oubliés. C'est bien ça, non ? C'est bien. Alors, je suis dans le samedi des bonnes nouvelles. Le fait que les femmes aient été mises de côté par les sciences, elles étaient aussi moquées, dit Alastair, il a raison. Tu as raison. Donc en soi, c'est pas une bonne nouvelle, mais qu'on commence à en prendre conscience, ça, c'en est une, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, ça, c'est une émission à laquelle j'ai eu la chance de participer il y a quelques mois. En Belgique, c'est une émission belge, et puis vous êtes très nombreux à la connaître. Hein. C'est Le Grand Cactus. La France se pique de ce cactus, peut-être un clin d'œil à, comment il s'appelait le chanteur là ? Et le monde entier est un cactus, et je me pique de le savoir. Incroyable. Jacques Dutronc. Voilà. Et donc c'est une émission, c'est une émission humoristique, qui a énormément de succès en Belgique, qui qui n'est pas trop vue en France parce qu'elle est accessible un peu sur les réseaux sociaux, mais elle n'est pas diffusée en tant que telle en France. Et je sais que vous l'aimez beaucoup. Et en même temps, comme c'est une émission qui se permet beaucoup de choses, j'y ai été, ouais. Qui se permet beaucoup de choses, et que parfois l'humour, quand on veut faire rire, parfois on flirte avec des trucs qui plaisent pas à certains. C'est très subjectif et personnel, l'humour. Parfois, il y a des gens qui disent « Ah, mais ça, c'est pas drôle, on devrait pas rire de ça. » Voilà, comme le dit Sugar, il y a des détracteurs. À propos de détracteurs, n'oubliez pas, ça me plaît, mon émission de dimanche soir sur l'exploration du monde de jeux vidéo et de la culture vidéoludique, comme on dit à l'Académie française, eh bien, est consacré à Farming Simulator, un jeu de simulation de la vie d'une exploitation agricole. Voilà. Excellent. Il y a des détracteurs. Joli, joli. Ils jonglent avec les mots avec une telle aisance. Mais oui, mais oui. Et oui, bien sûr. Magnifique. Bah, donc on se pencherait sur cette émission et vous savez quoi? On ira sur la chaîne YouTube et on ira se faire des petits extraits. Hein? Et puis, on finira par le débat. Le débat important dans l'actualité de cette semaine. Hein. Alors oui, bien sûr, Groenland, Trump, tout ça. Bon, bon, bon. Hein. Peccadille, que ceci par rapport à ce sujet-là. Est-ce que le café gourmand est un dessert? Est-ce que le café gourmand est un vrai dessert? Voilà. Ça, c'est du débat. Voilà, j'ai une pleine page dans le Figaro. Hein. Splendeur et misère du café gourmand. C'est un. Hein? Alors, tu vois, c'est parti le débat. Tu vois, je vous dis que c'est un débat. Ariette, pire arnaque le café gourmand. Voilà. Je pourrais tout donner pour un café gourmand d'Inoctali. Voilà. Je préfère le thé gourmand. Voilà. Incroyable. Ça y est, vous avez, même sur ce sujet en apparence anodin, vous allez vous écharper. Le café gourmand, c'est une arnaque, sauf quand tout est fait maison, ce qui est rare, me dit Marceau. Quand c'est fait maison, c'est génial, même s'il faut l'avouer, c'est souvent très cher. T'es gourmand. Oh, moi, je suis gourmand, je suis un mangeur de gâteau, moi. Moi, j'aime bien, moi. De toute façon, tout ce qui ressemble à un gâteau. Voilà. Alors, elle est pas bien, ma petite revue de presse des bonnes nouvelles, pour changer un petit peu les idées? Ça change un petit peu, non? Vous en pensez quoi? En plus, je suis de bonne humeur. J'ai eu Rayou au téléphone tout à l'heure. Il m'a appelé, mon Rayou. J'étais en train de déjeuner. Et puis, on s'est donné des nouvelles. Moi, il m'a raconté un peu sa vie. Je lui ai raconté la mienne. Je lui ai dit des secrets. Je lui ai dit des secrets. Des secrets que personne ne connaît. Il m'a raconté des secrets. Des secrets que personne ne connaît. Voilà, on s'est raconté nos secrets. Et ça m'a fait plaisir de l'avoir. Au téléphone. Bon, on commence cette revue de presse? Est-ce que j'ai votre go? Est-ce que j'ai votre feu vert? Vi? C'est parti? Yes, baby. Tiens, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas fait un petit yes, baby.
Yes. Give me a Y. Give me an E. Give me an S.
Wouh!
Yes.
Il est un peu gras, celui-là, je l'aime bien.
Well, yes.
Ah, celui-là, il est sobre, il est. Oh, yes. Mais j'ai un yes, baby, quelque part.
Yes.
Ça, c'est un yes laconique.
Yes.
Ça, c'est un yes un peu agacé, un peu. J'ai déjà dit yes. Bon, ça, c'est un mec qui, à mon avis, compense, tu vois. T'as le un peu clamé, là, un peu, tu vois. Je pense qu'il compense un truc, je sais pas quoi. Bon.
Yeah, baby.
Et c'est notre préféré, celui-là, c'est le Yes Baby. Ok, let's go. Alors, on commence par ça. Article des Échos de vendredi, puisque c'est des articles que je vous collecte tout au long de la semaine. Ça bosse, c'est pour vous. L'éolien et le solaire dépassent les énergies fossiles en Europe. Peut-être qu'au niveau du sommaire, il faut que je l'indique. C'est parti. En 2025, les panneaux solaires et les éoliennes ont produit 30%. 30% de l'électricité dans l'Union européenne, contre 29% pour les énergies fossiles. Les gars. Alors oui, les changements climatiques. Oui, on n'est pas à la hauteur de cette révolution. Oui, le monde ne s'adapte pas assez vite. Oui, on va payer très cher. Mais ça bouge quand même. Voilà. Et le charbon continue à décliner. L'année 2025, écrit Hortense Goulard, aurait été celle du basculement pour l'Europe. L'an passé, les énergies renouvelables, solaire et éolien, ont produit davantage d'électricité que les énergies fossiles, dont le charbon et le gaz, selon un rapport d'un think tank qui s'appelle Ember, qui a été publié jeudi. Voilà. Très bonne question de saut, mais où trouve-t-elle hein, toutes ses énergies. Excellent. En comptant les barrages hydroélectriques et d'autres sources d'énergie propre, parce que là, on n'a que le solaire et l'éolien, les renouvelables, je n'avais pas vu ça, génèrent désormais près de la moitié, merci Moisinck, merci Eucomique, 48% de l'électricité du continent. Les énergies renouvelables aujourd'hui, c'est 40%, 48%. Les panneaux solaires et les éoliennes ont généré 30% de la production d'électricité dans l'Union européenne, alors que les centrales fossiles ont plafonné à 29%. Vient ensuite le nucléaire, hein, stable à 23% du mix électrique européen. Vous savez que nous, là-dessus, on est plutôt calé, hein, et capé en matière de nucléaire, qui est une énergie qui n'émet pas de CO2. La part des énergies fossiles ne cesse de décliner grâce à des investissements massifs dans les renouvelables. Quelqu'un m'a demandé à combien le nucléaire au niveau européen, au niveau du mix européen, hein, rien à voir avec le dernier simplet avec Ava, on est à 23%. Ceci dépasse les énergies fossiles dans 14 pays de l'UE désormais. C'est déjà le cas de la France depuis 2023. Voilà. Dans le détail, cette progression des énergies renouvelables s'explique surtout par l'explosion de la production d'électricité d'origine solaire. Les panneaux solaires, dont le coût bas facilite le déploiement accéléré, ont bénéficié de conditions climatiques ensoleillées en début d'année dernière et dans le même temps une météo moins venteuse, moins pluvieuse que la normale la nuit à l'éolien et à l'hydroélectricité. En 2025, l'énergie solaire a ainsi permis de produire 369 TWh d'électricité en Europe. Ce chiffre a bondi de plus de 20% en un an. Le think tank souligne que c'est la quatrième année consécutive où l'électricité produite grâce à l'énergie solaire progresse de plus de 20% par an. En juin 2025, le solaire était même pour la première fois la principale source d'électricité produite en Europe. Voilà. Excusez-moi, je regarde une info. Pour répondre à quelqu'un dans le chat, c'est un sujet très important. Alors... excusez-moi, je cherche une actu pour la montrer à quelqu'un dans le chat. Voilà. Faut que je la trouve, faut que je la trouve. Il faut que je trouve un article de qualité. Bougez pas. Exactement, c'est sur la Chine. La Chine, c'est très paradoxal. Quelqu'un écrivait, ce qui est un classique sur ce sujet-là, je remonte un petit peu, il faut que je le trouve. Voilà, Charlie. Tous ces efforts, pendant que la Chine ne régule rien, les efforts de l'Europe ne compenseront jamais ce que les autres continuent polluent. Les autres continents, polluent. Ok, la Chine, c'est un peu compliqué. La Chine est le champion du monde des énergies renouvelables. Et là, Charlie se dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? La Chine est le champion du monde des énergies renouvelables. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un pays au monde qui installe plus d'énergie renouvelable que la Chine. Voilà. Mais, Charlie, et ça va dans ton sens, la Chine reste un immense pollueur. Voilà. La Chine est, ça fait un moment déjà, la championne mondiale des énergies renouvelables en termes d'installation, hein, notamment sur le solaire. Voilà. Mais cela n'empêche pas les Chinois de produire aussi toujours plus d'électricité grâce au charbon. Parce que la part dans le mix énergétique chinois, la part des énergies renouvelables est en train de devenir gigantesque, sans compter qu'ils fournissent des panneaux solaires pour la planète entière. Mais leur économie a une telle dynamique que leur besoin en énergie fait que même avec une proportion d'énergie renouvelable grandissante, eh bien... ils continuent à produire de l'énergie avec du charbon et encore plus qu'avant parce que la demande d'énergie globale est plus importante. Tu vois la nuance ? Donc sur la Chine, le attention, ils font zéro effort est faux, mais ce qui ne veut pas dire que la Chine ne pollue pas. Vous voyez ? Comme le dit Kiki, on critique beaucoup la Chine, mais on oublie très vite qu'ils constituent un cinquième de la population mondiale. Il y a aussi ça, quoi. Et donc, il y a toujours du charbon, effectivement. Hein, Charlie, là-dessus, personne ne peut te donner tort. Évolution qui vient contrarier les objectifs officiels des autorités chinoises en matière de réduction des gaz à effet de serre. Donc attention à... il n'y a que nous qui faisons des efforts, la Chine n'en fait pas, parce qu'en fait, c'est faux. C'est faux. Mais ça ne veut pas dire que la Chine ne pollue pas. OK ? Voilà. notamment la part dans le trafic chinois des véhicules électriques est juste surréaliste, quoi. Donc voilà, c'est un sujet sur lequel il faut se renseigner parce que c'est un peu contre-intuitif et un peu paradoxal. La Chine reste un immense pollueur parce qu'en fait, il y a une économie. C'est un peu la télé du monde, hein. Il y a une grosse partie de la pollution, d'ailleurs, émise en Chine qui vient de quoi? De nos petites commandes sur Internet, hein, nous, les fameux Européens si vertueux, hein, et qui nous envoient par transport aussi. Donc nous avons aussi une responsabilité dans ces émissions de CO2 venant de la Chine, par ailleurs. Mais voilà, il faut vraiment prendre ce problème dans sa complexité. On continue? Donc, je reviens à l'Europe parce que c'est quand même une bonne nouvelle. En 2025, l'énergie solaire a permis de construire 369 TWh d'électricité en Europe. C'est un chiffre qui a bondi de plus de 20% en un an. Plus 20% en un an. Oui, ça bouge quand même. En revanche, donc ça c'est pour le solaire, la production d'électricité dans les fermes éoliennes et les barrages hydroélectriques ont reculé. Voilà. Certes, il y a eu de nouvelles installations d'éoliennes, mais ça n'a pas suffi à compenser des conditions météo défavorables pendant la première moitié de l'année dernière, bon, manifestement au niveau du vent. Le charbon, parlons-en. Le charbon, la source d'énergie la plus polluante et la plus nocive pour le climat, continue. De rien, Charlie. Mais j'aime bien notre échange, tu vois. C'est intéressant parce que il y a encore quelques mois, je disais la même chose que toi. Sauf que ces derniers temps, je suis tombé sur ces articles qui soulignent ce paradoxe en fait chinois. Le charbon continue à décliner sur le continent européen. Bonne nouvelle. Salut Adèle. De façon irréversible, semble-t-il. Bonne nouvelle. L'énergie fossile assure désormais le charbon moins de 10% de la production d'électricité de l'Union européenne. C'est un déclin de 9,6% sur un an seulement. OK? Quand je vous dis que c'est un petit peu la revue de presse des bonnes nouvelles le samedi. Vous inquiétez pas, lundi, on reprend les mauvaises nouvelles, bien sûr. 19 pays européens ont désormais quasiment éliminé le charbon de leur mix énergétique avec moins que 5% de la production. À eux seuls, l'Allemagne et la Pologne sont à l'origine des trois quarts de la production d'électricité à partir de charbon en Europe. Voilà. Vous vous rendez compte? Il y a deux pays qui concentrent les trois quarts de la production d'électricité à partir de charbon. En revanche, les pays de l'UE continuent à dépendre du gaz. Alors ça, le gaz qui est une énergie fossile, bien sûr. Ça continue. On a même une hausse de 8% de la production d'énergie par les centrales à gaz sur 2025. Pourquoi? Notamment parce que l'an dernier, les conditions climatiques peu favorables aux barrages hydroélectriques ont entraîné un recours accru au gaz. Voilà. Cette hausse fait suite à plusieurs années de déclin après l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui avait explosé les prix du gaz. Malgré le rebond de l'année dernière, la consommation européenne de gaz d'ailleurs reste à 18% inférieure à celle d'avant-crise. Donc le gaz, toujours important. La consommation de gaz augmente particulièrement en Allemagne, en Italie et en Espagne. Autre bonne nouvelle, les installations de batteries pour stocker l'énergie et la libérer aux heures de pointe électrique ont dépassé les 10 gigawatts en Europe, plus de deux fois la puissance installée il y a 2 ans. La chute de prix des batteries, qui baisse de 20% par an en moyenne depuis une décennie, rend possible le déploiement désormais de ces installations à grande échelle. Longtemps, on s'est dit, c'est bien beau les énergies renouvelables, mais si on ne peut pas stocker cette énergie, ça ne va pas nous emmener très loin. Pour l'instant, près de la moitié de ces batteries se trouvent en Allemagne et en Italie. Mais les projets de batteries géantes se multiplient, voilà, notamment en Pologne, en Roumanie, en Espagne. Si tous ces projets deviennent opérationnels dans les prochaines années, l'Europe pourrait disposer de 40 gigawatts de stockage électrique, 10 fois plus qu'en 2023. En Italie, les batteries contribuent déjà à répondre à la demande d'électricité en heure de pointe, remplaçant certaines centrales à gaz. Parce que vous savez que l'un des défis des énergies renouvelables, c'est que lors des pics de consommation, tu n'as pas forcément l'énergie en face, l'énergie solaire, éolienne. Par définition, ce n'est pas forcément quand tu veux, quand tu en as besoin. D'où l'importance de la capacité de stockage et donc des batteries. Des questions? Très bonne question. Charlie demande, merci des précisions, mais néanmoins, la courbe de pollution de la Chine est grandissante au fil du temps jusqu'où? C'est-à-dire, à partir de quand les émissions de CO2 de la Chine vont-elles commencer à diminuer? Très bonne question. Bah, si la production, par exemple, d'électricité à base de charbon augmente, normalement, effectivement, ça ne descend pas. Je vais essayer de te trouver ça. Émissions de CO2. Très bonne question, je n'ai pas la réponse. Et donc, quand on n'a pas la réponse, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de la trouver. Est-ce qu'il y a un palier attendu bientôt? Ah. Ah, encore une bonne nouvelle. Ok. Source Radio France. Selon une étude, donc on parle d'une info de mai dernier, 2025, les émissions de CO2 de la Chine ont baissé au premier trimestre. Et elles ont arrêté de grimper depuis 12 mois. Donc on serait peut-être à un palier. Bonne nouvelle pour le climat. En Chine, premier pollueur du monde, tu vois, Charlie. On est bien d'accord. Les émissions de CO2 ont baissé, un recul de 1,6% au premier trimestre 2025 par rapport à la même période de l'an dernier. Et moins 1% sur les 12 derniers mois. Alors que la croissance, la Chine est un pays qui est toujours en croissance économique. Hein. Ah bah regarde. Bah, Charlie demandait un graphique. Là, ça part. Ici, on est en 2016, manifestement au tout début, là, 2016-2017. Et tu as les émissions de CO2 qui ne cessent de grimper. Voilà. Là, il y a évidemment une descente très forte. Là, c'est la crise sanitaire. Hop, et ça repart. Et là, a priori, un palier, et peut-être ça commence à baisser. Peut-être. Première population du monde aussi, bien sûr, Elimac, bien sûr. Bien sûr. Et la consommation va baisser aujourd'hui avec la baisse de la démographie vu la décroissance. Oui. Oui, oui. A priori, oui. À condition que la population mondiale, même un jour en décroissance, aujourd'hui la population mondiale ne décroît pas. En France, pour la première fois, le nombre de décès a dépassé récemment le nombre de naissances, mais la population française n'est pas en décroissance pour autant, grâce au solde migratoire. Donc, il vient avec des arrivées sur le sol français de étrangers plus nombreuses que les départs. Voilà, donc, on n'est pas encore en décroissance. Au niveau de la population mondiale, non plus. En revanche, on sait que cette terreur malthusienne d'une terre envahie par les humains, ça fait longtemps que les démographes savent que ça n'arrivera pas et qu'on va atteindre un pic de la population mondiale dans quelques temps. J'ai oublié combien, 10 milliards, 12 milliards, je sais plus. Voilà. Et après, ça commencera à diminuer. Mais on est très loin de ce pic, même si on sait qu'il y aura un pic. Et encore faut-il que ces 10 ou 12 milliards d'habitants de la planète, comment dire? Hop, un petit historique pour Mori Hochem, tu l'as bien mérité. Se comportent de façon vertueuse au niveau de leur consommation, bien sûr. Parce que si on est moins nombreux, mais qu'on consomme comme des pourceaux et qu'on émet des CO2 de partout, bah, ça marchera pas, quoi. De rien, Charlie, c'est un plaisir. C'est ce que j'aime bien ici, c'est quand on échange et qu'on cherche ensemble des infos. Oui, c'est vrai que l'Inde serait, en termes de population mondiale, devant d'ailleurs, oui. Maintenant, devant la Chine, il y aurait plus d'Indiens que de Chinois. C'est vrai, c'est vrai. Salut, écrivain. Alors, je ne suis pas très calé sur l'éolien, mais je vois certains d'entre vous, notamment Kiki, qui me dit, je persiste à dire que l'éolien fait partie des pires systèmes de production d'énergie. Quand tu dis pire, enfin, on a envie de te dire, mais devant le charbon, devant le pétrole, devant le gaz, est-ce que tu peux, Kiki, je le dis vraiment premier degré, ça m'intéresse. Est-ce que tu peux développer ça, s'il te plaît? Qu'est-ce qui ne va pas avec l'éolien? Je ne suis pas un spécialiste du sujet. Et pourquoi tu dis que c'est l'un des pires? Est-ce que tu peux développer? Parce que je pense que ça intéresse tout le monde. J'ai une carte des émissions de CO2 par pays, par habitant, si tu veux que je le partage. Je vois ce que tu veux dire, mais par habitant, Ouais, j'entends. Tu vas nous montrer que par habitant, les Chinois sont pas très polluants. Ouais, ça m'intéresse en vrai. Mais je connais la réponse d'une partie du chat. Eh, ça nous fait une belle jambe, hein? Vu qu'ils sont nombreux. Mais ça m'intéresse. Alors, est-ce que. Donc, Kiki, tu pourrais me filer des infos sur l'éolien. S'il te plaît. Stop. Stop. Alors. Ok, let's go. Ok, en vrai, c'est intéressant. Donc, un modo vient de m'envoyer la carte des émissions de CO2 par habitant, des pays par habitant. Donc, ça monte. C'est pas un modo, Sugar? Qui m'a envoyé? C'est Kiné qui m'a envoyé? Ah, c'est un VIP. Ouais, c'est pareil, c'est la grande famille. C'est la famille. C'est pareil, c'est pareil. Le problème, c'est que si Kiné 22 passe Modo, il sera plus VIP. Mais si, c'est pareil, Boubou. C'est pareil. D'ailleurs, on ne peut pas avoir les deux statuts en même temps. Voilà. Oui, c'est la famille élargie. Mais oui, Kiné, tu as une place à part dans notre cœur. Donc, je vous montre. C'est le classement des émissions de CO2, mais par pays, mais par habitant. Vous allez voir que la Chine, les fameux, qui est le pays au monde le plus pollueur, en tant que pays par habitant, il n'est pas forcément numéro 1. Qu'est-ce qu'on a au top 1? Le Qatar. Le Qatar, numéro 1, number 1. Voilà. C'est 2017. Bon, par contre, les chiffres. Ah, ce qui m'embête. Alors, c'est bien Wikipédia, mais là, pour le coup, 2017, les gars, on est en 2000, en 2026. Bon, c'est dommage. Il y a sûrement mieux que ça. Mais bon. Le Qatar, Curaçao, je sais pas où c'est, pour moi, c'est un alcool. Koweït, Émirats Arabes Unis, Gibraltar. Bahreïn, Arabie Saoudite, Brunei, Australie. Ah bah, ils ont les Australiens. Ah bah, les Australiens. Canada, États-Unis, Luxembourg, Oman, Trinité et Tobago, le Kazakhstan. Mais qu'est-ce qu'ils font au Kazakhstan? Mais ils le boivent le pétrole là-bas ou pas? Turkménistan, Estonie, Corée du Sud, Taïwan, Russie. J'attends la Chine, hein. Tchéquie, Pays-Bas, Japon, Allemagne, Singapour, Belgique, Pologne, Finlande, Chypre. Mais 35 la Chine. Nous, on est où, nous, par habitant, nous? France! 58. Bon. L'Australie, ils sont pas beaucoup. Non, mais ça, non, mais c'est. Non, mais. Millions de dollars, c'est la consommation. C'est les émissions de CO2 par habitant. Donc, ça indique. C'est pas une question de. C'est pas une question d'être nombreux ou pas nombreux. C'est que c'est les émissions de CO2 d'un pays divisé par le nombre d'habitants. Donc manifestement, la façon dont consomment les gens des pays là qui sont en tête, là, par exemple, pose un problème quand même. Oui. Non, parce qu'à un moment, c'est aussi des comportements individuels. Oui, mais du coup, moins t'es nombreux, plus il y en a. Oui, je sais, je connais le principe de multiplication. Je l'ai appris il y a longtemps, en primaire. Mais ça montre au-delà des. Ah, la Chine. Il faut aussi se pencher sur les comportements individuels. J'aimerais avoir des chiffres plus récents par contre. On va essayer de trouver ça. Émission de CO2 par habitant. C'est parti. CO2 par habitant, let's go. Parce que 2017, hein, merci quoi. Ok, j'ai le même article de Wikipédia. World, mais il faut trouver une source propre. J'ai un truc de l'INSEE, mais c'est pour la France. C'est marrant d'avoir les différences par région. Oh, les Parigots, vous allez prendre tellement cher. Europe. Oui, oh, pourrait. Faut trouver une bonne source après. 2022, les émissions de CO2 par personne et par pays. Ok. Bon, le truc est un peu illisible. Alors, ok, ça ce serait plus récent. 2000, 2022, ok. Sur le Wikipédia anglophone, il y a ceux de 2023. Ah, bah, ça m'intéresse. Ok, je vais voir. Alors, attends. Comment j'accède au truc anglophone? Langage en haut à droite. Merci. Où ça? La langue là? Deutsch, non, hein. English. 2023. Ok, c'est parti. Alors. Là, on est à. Le 1, c'est Polo. Je sais pas qui est ce gars. Il y a un gars qui s'appelle Polo. Qui consomme à mort, quoi. Non, c'est pas là-haut. Je sais pas où c'est. Étoile devrait savoir ça, quoi. Qatar. On retrouve un peu les mêmes pays, quand même. Koweït. Brunei. Nouvelle-Calédonie. Par habitant. Bahreïn. Les Émirats Arabes Unis, c'est en Micronésie, d'accord. C'est en Océanie, me dit-on, pas là-haut. Trinidad et Tobago, voilà. On retrouve un peu les mêmes. Gibraltar, l'Arabie Saoudite, Oman, Canada, Curaçao, qui a progressé, Curaçao. Russie, Australie, États-Unis, Seychelles, Kazakhstan, Taïwan, Luxembourg, Corée du Sud, Turkménistan, Groenland, Singapour, Chine. Chine, 25. 35 dans les chiffres qu'on a vus tout à l'heure 2017. Donc, les émissions de CO2 par habitant en Chine ont progressé. Hein. Vous voyez? Curaçao, Royaume des Pays-Bas. Ok, moi je crois que c'était pour les cocktails Curaçao. Voilà. Donc, c'est intéressant. Mais la Chine, premier pollueur mondial, hein, c'est pour ça qu'on regarde ce graphique. Chine, premier pollueur mondial en tant que pays, et par habitant, c'est pas le premier. C'est un sujet qui est vraiment intéressant. Peut-on stigmatiser l'individualisme lorsqu'on exporte beaucoup? Non, mais je pense qu'en fait, il faut regarder les deux, en fait. Je pense qu'il faut, je pense qu'aucun des deux, aucun des deux regards n'est le bon. Il faut regarder les deux. Il faut voir les émissions par pays, les émissions par habitant, je pense. Merci, Thierry Lian. Bien sûr, WAM et moi, le pseudo est joli, le fait qu'on importe la majorité de produits polluants en les faisant produire par d'autres pays reste un problème. Bien sûr. Ah, c'est ce que dit Citus aussi, premier pollueur mondial. Ok, mais si toutes les entreprises occidentales avaient gardé leurs usines chez eux au lieu de délocaliser en Chine, la tendance aurait été différente. Différente. On peut pas dire à Citus que c'est faux ce qu'il dit. Hein. On est bien d'accord. Mais, voilà, je reviens à ma bonne nouvelle. Les énergies renouvelables explosent dans le monde en matière de production, et notamment en Chine. Voilà. Notamment en Europe, avec les chiffres qu'on vient de voir. Et c'est quand même une première, pour la première fois cette année, l'éolien et le solaire dépassent les énergies fossiles en Europe. Voilà. On passe à la santé, ça vous va? Cancer du poumon, moi je trouve ça formidable. Un des cancers les plus agressifs. Merci beaucoup Moulagov pour ce prout dans le chat. Et oui, c'est une communauté très libre, très ouverte. Point d'exclamation prout qui renvoie à une vraie émission ici qui s'est tenue ici avec Mister V dans Ça me plaît où Mister V l'humoriste les mamas, la pizza de la mama etc. S'était livré un concours de prout voilà. Avec mes micros et les invités dans Ça me plaît ne le savent pas mais quand ils mettent un micro ils mettent un micro qui a servi aussi à Mister V pour un concert de prout. En même temps puisqu'on parle de santé ne pas se retenir c'est important. Oui tiens puisqu'on parle de ça. Rappelons-le. Alors oui, ça n'est jamais agréable. Hein. Tonton Bernard, ou monsieur, ou madame, ou fiston, qui lâche une grosse caisse à table. Et pourtant, hein, pour la santé, ça n'est pas un si mauvais calcul. Les gaz, ça ne se garde pas, il ne faut pas les garder. Hein, donc il faut les expulser. Alors évidemment, c'est fait plus ou moins, de façon plus ou moins discrète, mais comme le dit Kiné22 dans le chat, eh bien, pétons. Et ça fait toujours rire en plus. Ça dépend, étalon du cul, ça dépend. Idem sous la couette, non, non, ça c'est un no-go, c'est non. Ça c'est non. Ça, pour moi, c'est criminel. Tu ne pètes pas sous la couette. Tu ne pètes pas sous la couette. Sous la couette. Tu ne pètes pas sous la couette. Non. Il y a deux règles de la vie en société. Hein. Il y a deux règles dans la vie en société pour que la société tienne le coup, quoi. Pour que le fragile lien entre les individus ne soit pas dissous dans l'individualisme forcené qui caractérise de plus en plus nos sociétés. Tu ne pètes pas sous la couette, tu ne pètes pas dans l'ascenseur. Voilà. Je pense que si on respecte ces deux règles simples et essentielles de la vie ensemble, du vivre ensemble, eh bien, l'humanité peut être sauvée. Donc, ne pétez pas sous la couette, ne pétez pas dans l'ascenseur. Ailleurs, je pense que c'est tolérable. OK? Et maintenant, on parle du cancer du poumon, qui est un cancer extrêmement agressif. J'espère que personne dans le chat a été touché ou a été touché ou a connu un de ses proches touché, parce que c'est une belle saloperie, hein, pour le dire dans un langage extrêmement scientifique et poussé. C'est un article dans Les Échos de cette semaine. Force à ceux qui connaissent cette maladie de trop près, le dépistage du cancer du poumon fera ses premiers pas en France en mars. Voilà, ben j'envoie la force à tous ceux qui ont eu un proche emporté par ce cancer. Seuls 20% des patients atteints d'un cancer du poumon sont encore en vie 5 ans après avoir été diagnostiqués. La saloperie. Car le diagnostic arrive souvent trop tard. La France lance donc un programme de dépistage dans 5 régions pilotes. C'est pas une bonne nouvelle, ça? La France s'attaque au problème du cancer du poumon. Celui-ci reste la première cause de mortalité par cancer en France, avec près de 31 000 décès chaque année dans l'Hexagone. C'est énorme. Malgré un nombre croissant de thérapies innovantes, en particulier d'immunothérapie, la question du diagnostic est en cause. Dans 80%, il arrive trop tard, le diagnostic. Et seuls 20% des patients atteints d'un cancer du poumon sont encore en vie 5 ans après avoir été diagnostiqués. Waouh! Je ne savais pas que c'était aussi chaud. Pour inverser la proportion et pouvoir demain guérir 80% de ce type de cancer, la France va donc tester un programme de dépistage avant de le déployer au niveau national à partir de 2030. Un projet pilote de dépistage de 20 000 volontaires, baptisé Impulsion, va débuter en mars. Annoncé un des deux pneumologues référents du projet, qui s'appelle le professeur Sébastien Courreau, de l'hôpital Lyon-Sud, en présentant les grands sujets du congrès de pneumologie de langue française qui se tiendra à Lille du 30 janvier au 1er février. Ce sera aussi l'occasion de tester l'usage de l'IA dans le dépistage. Vous savez que l'IA peut être un vrai outil dingue pour l'aide au diagnostic, il ne remplace pas évidemment le médecin, pour les médecins et dans la recherche aussi. Sous réserve du feu vert de la CNIL, la Commission nationale la CNIL, c'est la Commission nationale informatique et liberté. Impulsion démarrera en mars dans 5 régions pilotes. Île-de-France, Hauts-de-France, Pays de la Loire, PACA et Auvergne-Rhône-Alpes, et deviendra national au fil des mois. L'objectif est de recruter sur 18 à 24 mois 20 000 participants volontaires, hommes-femmes, sur une population à un risque estimé à 4 millions de Français qui sont les fumeurs ou ex-fumeurs sevrés depuis moins de 15 ans, âgés de 50 à 75 ans, ayant fumé au moins un paquet par jour pendant 20 ans ou deux paquets par jour pendant 10 ans. Voilà. Donc l'étude, le programme test là vise les gros fumeurs ou ceux qui ont été gros fumeurs. Ils seront suivis pendant 3 ans avec deux scanners thoraciques basse dose, espacés d'un an, puis de un tous les 2 ans, et un accompagnement au sevrage tabagique, tant qu'à faire. Pour ces scanners, le principe est une double lecture par deux pneumologues, mais vu son coût, pour les 2 000 premiers participants, on regardera si un logiciel d'IA, en l'occurrence d'une société coréenne qui s'appelle Coreline, aboutit au même résultat et donc peut éventuellement se substituer à une deuxième lecture urbaine. Tongs, t'en as pensé quoi du discours de Macron par rapport à la position de la France dans la relation avec Trump? Tongs, tu as le replay de la matinée Étienne d'hier où nous en avons parlé longuement. Mais comme tu le vois, ça n'est pas au sommaire d'aujourd'hui. Impulsion dépistera aussi d'autres maladies liées au tabac, visibles au scanner, comme l'emphysème pulmonaire, les atteintes cardiovasculaires et l'ostéoporose, maladies souvent sous-diagnostiquées chez les fumeurs. Là encore, Impulsion va servir à valider l'usage de l'IA pour automatiser les tâches chronophages. On s'inquiète beaucoup des dérives de l'IA ou des effets éventuellement nocifs de l'IA sur l'emploi. Ce sont des vraies menaces, mais l'IA, c'est aussi ça, quoi. Notamment en matière de santé, ça peut être un truc de fou. Pour automatiser donc des tâches chronophages, comme la mesure de l'emphysème pulmonaire ou encore la densité osseuse. La consultation chez un médecin, elle donnera lieu à une évaluation respiratoire pour déceler une éventuelle bronchite chronique obstructive. Une campagne de communication, comment ça va se passer concrètement? Informant les plus de 50 ans de l'existence de ce programme Impulsion dans leur région, ceux souhaitant y participer pourront s'adresser à leur médecin, leur référent, qui les orientera pour s'inscrire directement sur un site internet dédié. Ou un centre d'appel, les deux vont ouvrir bientôt, si ça vous intéresse. Merci Cocolule. Je ne sais pas, si vous êtes, si vous habitez l'une des cinq régions qu'on vient d'évoquer, que vous êtes gros fumeur, que vous avez été gros fumeur, ou que dans votre entourage, il y a un gros fumeur ou un ex-gros fumeur, il peut participer à ce programme pilote de dépistage. Des programmes qui l'aidera peut-être à déceler un début de cancer du poumon. Et évidemment, comme tous les cancers, plus tôt il est pris et plus vous avez de chances d'en guérir. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner. Il faut avoir plus de 50 ans. Ouais. D'autres pays ont déjà lancé leur dépistage, comme la Pologne ou le Royaume-Uni, qui le mènent depuis plusieurs années, avec notamment une flotte d'une dizaine de bus pour faire les consultations et les scanners au plus près des populations défavorisées ou peu mobiles. On sait donc à quoi s'attendre. En moyenne, 2% des dépistages du cancer du poumon auprès de populations comme ça ciblées sont positifs. Mais surtout, 80% des cancers détectés avec ce dépistage précoce, 80% sont encore au stade local. De quoi changer le taux de survie? La France prévoit généraliser le dépistage en 2030 à tous les fumeurs à risque. Mais pas sûr que cela suffise, car la maladie augmente chez les non-fumeurs aussi. On estime qu'au niveau mondial, 200 000 à 300 000 décès par an sont dus à un cancer du poumon. J'espérais que l'article allait en parler, il en parle, dû à la pollution atmosphérique, notamment les particules fines d'origine automobile ou industrielle. Pardon pour la vulgarité, mais nous respirons dans la plupart des régions françaises un air de merde, voilà, dû à la pollution atmosphérique. Non, Camille, c'est pas le tabac passif. Non, c'est pas José en terrasse là, qui fume à 20 mètres de toi qui t'empoisonne. Non, c'est l'air que tu respires tous les jours. Hein. Avec les bagnoles, l'industrie, etc. Quoi. C'est juste l'air, en fait. Qui est dégueulasse. Et tu meurs de ça. Et ça, on le sait depuis longtemps. Voilà, écrivain a une pneumopathie, voilà, et une tumeur bénigne, et tu n'es pas, et oui, et tu n'es pas fumeur, et oui. Alors Camille tient au tabagisme passif. Je me trompe peut-être, mais dans une société comme la société française, le tabagisme passif il a beaucoup diminué, non? Parce que normalement on fume plus. Les restos, c'est interdit, non? Les cafés, c'est interdit, non? Les transports en commun, j'ai connu le métro, ça fumait, le train, ça fumait, l'avion, ça fumait, le cinéma, ça fumait. Le tabagisme passif, il a quand même radicalement diminué, non? Je sais pas. Il y a les familles, par contre, ouais. Il y a la maison, ouais. Quand vous avez des parents fumeurs, par exemple, ouais. C'est plutôt l'entourage, quoi. En terrasse encore? C'est plutôt en famille, ouais. Qui fume dans sa maison? Ben, les fumeurs, je pense, non. Terrasse, c'est un peu ventilé, ouais. Je vois très peu de parents fumer à l'intérieur, ça, je sais pas, ça. Comme je suis pas trop chez les gens, moi, j'évite. Ça fait bizarre de se dire qu'on pouvait fumer dans les cinémas, dans le train avant. Ouais, je sais, ouais. J'ai connu ça, moi. Dans les rédactions de journaux, quand j'ai commencé, tu voyais pas bien les gens, hein? Ça a fumé de partout, quoi. Ouais. C'était incroyable. Donc voilà. Donc, bonne nouvelle sur le dépistage du cancer du poumon. Aujourd'hui, donc, les chiffres sont fous. En France, quand quelqu'un est dépisté d'un cancer du poumon, il y Il a que 20% de chance d'être vivant au bout de 5 ans. 80% quick en 5 ans, parce que le cancer est pris trop tard. L'objectif, c'est d'inverser ça et d'arriver sur 80% de personnes qui, au-delà de 5 ans, sont vivantes. Ouais, 20% seulement. Parce qu'en fait, le cancer est détecté beaucoup trop tard, parce qu'il n'y a pas de dépistage. Donc l'idée, c'est d'inverser ça, puisqu'il y a des thérapies de plus en plus efficaces contre le cancer du poumon, mais il est pris beaucoup trop tard. Merci Alexandra. En tout cas, moi, je la cigarette au quotidien, enfin bon, à Paris en tout cas, parce que je suis un exilé, je la vois pas beaucoup la cigarette à Paris, moi. Vous la voyez, vous? Autour de vous? Je ne la vois pas. Ça va, pote? Mais des clopes, si, un petit peu le soir, en terrasse de bar, un peu. Ouais. Partout, moi aussi, tu vois des clopes partout, toi. Mais où? En terrasse, peut-être, non? Les Toulousains, ça fume? Ah ouais, mais Toulouse, c'est pas pareil. C'est le mec. Je fréquente beaucoup d'artistes, ça fume énormément. Ah oui, bah moi, oui. C'est parce que tu es dans les beaux quartiers. Ah bah oui. Qu'est-ce que tu es en train de dire? C'est que c'est surtout dans les quartiers plus populaires que ça fume beaucoup. C'est ça que tu veux dire? Occitanie, ça fume beaucoup. À l'entrée des bureaux, ça va beaucoup de bruit. Ouais, mais c'est la. Ouais, ok. Les riches fument moins, dis-moi aussi, d'accord. C'est marrant, quand je suis venu à Paris, je me suis dit, mais tout le monde fume ici. En tout cas, comme le dit l'étalon du cul, qui, comme moi, outre un pseudo magnifique, a un petit peu de bouteille, hein, il me dit, en tout cas, ça fume beaucoup moins qu'il y a 20 ans, c'est sûr. Ok. Bon, deuxième bonne nouvelle. Troisième bonne nouvelle, voilà. Ils ont fait des expériences sur les souris. Les souris, elles voyaient que dalle, elles étaient aveugles, et maintenant elles voient. Imagine le rêve, imagine l'espoir, hein, pour les malvoyants, les aveugles. Alors, d'où ce titre magnifique que j'ai écrit, pensé moi-même. Souris, tu vois, pour l'exclamation. Ha! Nul. Bon, très inspiré. C'est dans Le Parisien cette fois. Et les souris recouvrèrent la vue. Ça pourrait donner un slogan. Là, tu t'adresses à un malvoyant. Ouais. Tu vois rien? Ouvre les yeux! T'as pas de boulot? Traverse la rue! T'es en dépression? Mais fais du sport! Voilà. Et ben, ça marche pas comme ça. C'est plus compliqué. T'es triste? Arrête! Mais oui! Alors, qu'est-ce que c'est que cet article? Et les souris recouvrèrent la vue. En Essonne, un laboratoire français. Et c'est la France, mesdames et messieurs. Créer des vecteurs à ARN messager, une technologie révolutionnaire qui cible les maladies génétiques pour demain guérir l'homme, point d'interrogation, bien sûr. Sur le plateau de Saclay à Gif-sur-Yvette, une biotech discrète change la vie de petits rongeurs et bientôt celle de non-voyants, point d'interrogation. C'est ici, au cœur d'un incubateur opéré par Biolabs au sein des infrastructures de Servier, que l'entreprise française GEGTech. GEGTech a installé ses paillasses. Dans des bureaux vitrés haut de plafond, le mec nous décrit tout. J'en ai rien à foutre, moi. Il va nous filer la couleur du papier peint, le gars. Dans des bureaux vitrés et hauts de plafond que ne renierait pas la Silicon Valley, mais j'en ai rien à carrer. Je veux savoir comment on rend la vue aux souris, moi. Une équipe d'une dizaine de personnes pilote une révolution médicale. Ah, on y est quand même. La thérapie génique de haute précision. En collaboration avec l'Université de Californie à Irvine, aux États-Unis donc, ce laboratoire a annoncé l'an dernier avoir réussi l'impensable, restaurer la vue chez des souris atteintes de cécité héréditaire. Donc héréditaire. De génération en génération. T'imagines, il y a une petite souris qui vient voir son père, qui lui dit, papa, je vois. Le papa souris, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je ne te crois pas. Et l'enfant souris qui a retrouvé la vue lui dit, mais si, regarde. Et le père lui répond quoi? Mais je ne vois rien. Donc ça crée des situations extrêmement tendues dans les familles de souris. Mais
C'est ça qui se passe. Fort de ce succès, il affirme aujourd'hui à notre journal que les essais cliniques chez l'homme devraient démarrer dès 2028. Alors je rigole, mais c'est ouf en vrai. Fort de ce succès, il affirme aujourd'hui à notre journal que les essais cliniques chez l'homme devraient démarrer dès 2028 ou 2029. Mais c'est fou. Une fois lancée outre-Atlantique, une start-up dédiée à la lutte contre les pathologies génétiques de l'œil, ils vont tenter les... Vous rendez compte ? Moi, j'ai un ami qui voit très mal, qui n'y voit goutte. Voilà. Alors, le problème, c'est que c'est un gars qui joue beaucoup à Valorant. Pour ceux qui nous écoutent en podcast audio et qui ne connaissent pas, c'est un jeu de tir sur un jeu vidéo, c'est un FPS. Voilà. Et donc, c'est un passionné de Valorant, mais il est très mauvais parce qu'il a une vue. Il n'y voit goutte, il ne voit pas un mètre. Quoi. Voilà. Imaginez l'espoir. Est-ce qu'il est gentil ? Il est gentil. Est-ce que c'est un vieux monsieur ? Oui, on pourrait le qualifier de vieux monsieur. Est-ce qu'il est gold ? Non, il est plutôt bronze. Ouais. C'est un streamer ? Je ne répondrai pas à cette question. Est-ce qu'il est beau gosse ? Je viens d'inventer cette question. Il est beau gosse. Donc 2028-2029, les tests chez les hommes. Chez les rongeurs traités comme... comment ça marche leur histoire ? Chez les rongeurs traités comme chez les futurs patients humains, une même mutation génétique provoque une dégénérescence rétinienne totale. Un handicap grave, causé dans ce cas par une variation infiniment petite, dans ce code à rallonge qu'est l'ADN, qui dicte aussi bien la couleur de nos cheveux que la longueur de notre nez, il a suffi qu'une seule lettre diffère pour placer des individus dans le noir. Mal fait leur histoire, là. Une seule base A, C, G ou T est mutée, vous êtes aveugle. Dit un chercheur. On estime que sur les 4000 maladies génétiques, la moitié sont ainsi induites par d'aussi infimes bugs dans le code du vivant. Ben, tu vois, c'est pour toi, Krila, que je lis cet article, parce que je trouve ça incroyable. Krila nous dit, ça me donne espoir, je suis moi-même atteint d'une maladie dégénérative qui s'appelle la rétinite pigmentaire. Voilà, je vois comme dans un tunnel. Et je connais. Je sais, pour avoir beaucoup participé au Téléthon, on m'a beaucoup parlé de cette maladie. Voilà. Je vois comme dans un tunnel et je ne vois pas dans le noir. Ouais, je connais. Donc, 4000 maladies génétiques, et on estime que sur les 4000 maladies génétiques connues, la moitié sont induites comme ça par des infimes bugs dans le code du vivant. Convaincu de tenir une piste prometteuse, cette biotech contacte donc française, mesdames et messieurs, contacte deux équipes américaines qui savent intervenir finement sur une mutation, comme on corrigerait une faute de frappe dans un texte de plusieurs milliards de signes. Les deux labos visés ont aussi en commun de travailler sur l'œil. Cet organe est simple à tester, il est facile d'accès pour injecter le traitement. Injecter le traitement dans l'œil, bah oui, faut ce qu'il faut. Ils doivent savoir, parce que je sais que pour notamment la cataracte, tout ça, les trucs, éviter les récidives, j'ai entendu des personnes âgées qui recevaient des piqûres dans l'œil. Donc ça, je pense qu'il y a un process, quoi. Quelqu'un s'est déjà fait faire une piqûre dans l'œil, le chat ? Levez la main, les gars qui sont déjà fait des piqûres dans l'œil. Je sais que ça existe. Personne ? Il y a un débat dans le chat depuis tout à l'heure, mais qui voit dans le noir ? Voilà, pour mon opération laser, Rami, voilà. Ils mettent du collier anesthésiant. Voilà, tout à fait. Donc, on sait faire. L'équipe californienne du professeur Christophe Palsveski, faut pas que Trump tombe sur celui-là. Hein. Je puis me permettre, là. À mon avis, la police de l'immigration, l'ICE, là, il tombe sur le professeur Christophe Palsveski. Hein, ça va demander les papiers, ou même ça va être directement au Newf. Hein. Bon, je dis ça, je dis rien. Hein. Les deux partenaires unissent leurs forces. La biotech francilienne montant également les protocoles et l'université d'Irvine gérant les injections. Après une première tentative décevante, une nouvelle recette mise au point par la boîte française Tech donne des résultats spectaculaires. Les souris traitées retrouvent en moyenne plus de 50% de leur fonction rétinienne. 5-1. Elles ont partiellement recouvré la vue. Traduit Nicolas Grandchamp, directeur scientifique. Une expérience semblable est en cours avec l'autre labo américain contacté à Cambridge. Un espoir pour les personnes atteintes d'amaurose congénitale de Leber, maladie qui représente 20% des cas de cécité
chez les enfants en âge d'aller à l'école. C'est fascinant. Pour réussir cette prouesse, le correcteur génétique, tel que conçu par les chercheurs de la côte ouest américaine, n'aurait pas suffi. Pour que ça fonctionne, il fallait amener à bon port au cœur des cellules de la rétine. C'est la mission de la boîte de tech française, hein, dont le savoir-faire est de produire des vecteurs biologiques de minuscules véhicules pour particules. Bon, GG à l'auteur de l'article, parce que je trouve qu'il nous rend assez compréhensible un sujet assez complexe. Nous faisons la fusée, notre partenaire, conçoit le satellite, illustre Antoine Dubost, nous adaptons la fusée pour qu'elle puisse transporter cette charge avec la bonne efficacité au bon endroit. Contrairement aux approches classiques qui utilisent souvent des vecteurs à ADN, GelchTech a misé sur l'ARN messager. Un choix qui offrirait des avantages en matière de sécurité, là où l'ADN peut parfois s'insérer de manière imprévisible dans le génome et causer des effets secondaires, l'ARN délivre l'instruction, permet la réparation, puis disparaît de la cellule. Dans l'ambiance feutrée du laboratoire de Gif-sur-Yvette, Nicolas Grandchamp dévoile ses secrets de fabrication en projetant au mur l'image d'un cercle composé de caractères noirs, la représentation d'un plasmide, une molécule ADN en forme de cerceau qui ne mesure en réalité qu'une poignée de nanomètres. Petit mais costaud, comme le petit Pimousse, il est le plan d'instruction qui, inséré dans une cellule de test, va lui commander de fabriquer les vecteurs à ARNm utiles au traitement de demain. Très bonne question d'historique. Est-ce qu'une souris guérie ne transmettra plus ce gène qui pose problème, ou est-ce que ses descendants devront aussi être guéris? À partir du moment où moi je ne suis pas scientifique, mais je dirais qu'à partir du moment où on est intervenu sur l'ADN, je pense que normalement l'anomalie génétique elle est corrigée. Donc je pense qu'au niveau de la transmission, il n'y a plus. Je dirais, mais à vérifier. Sidochine dit ça dépend. Moi, je dis ça dépend, ça dépasse. Eh bien, bonjour, Magic Pimousse. Nous ne sommes pas transhumanistes, dit l'un des chercheurs, qui dit avoir beaucoup réfléchi aux aspects éthiques avant de lancer cette activité. On est là pour guérir, pas pour créer l'homme augmenté, parce qu'il y a aussi, bien sûr, cette crainte. L'efficacité de son vecteur à ARN messager démontré, GelchTech va s'attaquer maintenant aux autres maladies génétiques dont 400 millions de personnes souffrent dans le monde. Sa technologie ouvrirait même d'autres perspectives, vaccination à ARNm pour les maladies nosocomiales, le paludisme, immunothérapie pour le cancer. Ce n'est pas juste de la projection, précise Nicolas Grandchamp, mais des projets en cours concrètement avancés. C'est fascinant, c'est fascinant. Et en même temps, je comprends la question de Buzzmocker, parce que comme le dit Buzzmocker, et je pense que vous serez d'accord 100% avec lui, c'est bien beau de redonner la vue, c'est bien beau de redonner la vue, c'est très bien, voilà. Mais quand est-ce que la science me rendra mes cheveux? Buzzmocker, sache que je suis totalement solidaire de cette analyse. Alors oui, ah, ça dépiste le cancer du poumon, ça veut rendre la vue à ceux qui ne voient pas, voilà. Et les cheveux alors? Et les cheveux, ils peuvent tomber. Et les cheveux, ils peuvent disparaître. Hein. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, rien. Voilà. Alors, ça, sur les vrais sujets, ça cherche pas. En tout cas, ça trouve pas beaucoup. Hein. Voilà. Ben oui, les cheveux. Putain, imagine le gars un jour. Imagine le marché. Imagine un gars, un jour, il invente le truc, le médicament, le truc, mais totalement anodin, sans effet secondaire, qui fait repousser les cheveux, qui te donne une touffe de cheveux. C'est la forêt vierge sur ta tête. C'est l'abondance. C'est la fulgurance. Mais il y a Lester qui va se faire des couilles en platine, mais c'est pas des couilles en platine qui va se faire. Mais la fortune de Musk. Mais ça va être du pipi de chat. Ça va être un pourboire. Les gars vont se ruer là-dessus. Il n'y a pas des scientifiques dans le chat là, qui bossent là-dessus là. Moi, je lui donne mon RIB, mais je lui donne ma fortune, moi. Mais take my money, mais prenez tout. Prenez mon PC, prenez ma caméra, prenez ma table de mixage, prenez mes jeux, prenez mes skins sur Valo, je vous donne tout, moi.
«
Les implants, mais qui veut aller Mais pff, non, le truc qui fait repousser les cheveux, quoi. Pas les trucs, on t'enlève les poils des fesses et on te les met, on te fait des trous dans la tête et on t'en met, et puis 3 ans plus tard, faut recommencer parce que les autres cheveux continuent à tomber. Non, un truc, tu vois, un vrai truc. On parlait pas des implants, là. Non, un vrai truc. Voilà. Et l'espoir, voilà, comme quoi c'est vraiment la revue de presse des bonnes nouvelles, comme ça c'est vraiment le samedi. Hein, pour ceux qui n'ont pas compris le jeu de mots, le Sam dit des bonnes nouvelles. Voilà, Révivin, dans le chat, nous dit: je suis attaché de recherche clinique. C'est en cours, mais ça n'arrivera pas pour maintenant encore. Révi, dis-moi, combien de temps? Dis-moi que je vais connaître ça. Dis-moi qu'au soir de ma vie, je vais mourir très très tard, moi. Dis-moi qu'à 130 ans, quand j'aurai 130 ans, hein, je vais lire dans mon journal favori, voilà, la sortie d'un traitement efficace tu vois, qui fait revivre, qui fait tout repartir de zéro à, tu vois, comme avant. Dis-moi que je vais connaître ça. 130 ans. C'est dans 75 ans. On l'aura, ça? On l'aura, ça? Dis-moi, Révi, dis-moi qu'on va l'avoir. Dis-moi que je l'aurai, que ça va être une dinguerie. Là? Rassure-nous, rassure-nous, dis-nous-le. Il y a déjà une entreprise qui est en cours de développement du Juiceau? Oula. Alors, pas avant 20 ans à cause des effets secondaires. C'est quoi les effets secondaires, Révi? Alors là, tu vois, on était sur une note d'espoir. Révi nous dit, bientôt il y aura un médicament. Et Révi nous dit, pas avant 20 ans à cause des effets secondaires. C'est quoi les effets secondaires? Parce que si les effets secondaires du médicament qui empêche de perdre ses cheveux, c'est que tu perds tes jambes, par exemple, ou tu perds tes bras, eh ben, en vrai, c'est pas cool. Hein? Comme l'alcool. Bon Samuel, comment on fait pour que tu aies à nouveau ton émission en semaine? Je veux pas que ma mère garde des bêtises. On est où là-bas? Il n'y a plus de sous, il n'y a plus de sous, il n'y a plus. On est sur Twitch maintenant. Effet secondaire, c'est que tu perds 10K. Bon, c'est passionnant. Ok, d'accord. Moi, je, en vrai, je, le truc où ce truc sort, le jour où le truc sort, j'achète, hein. Perso, je suis double transplanté des poumons, me dit Spoofy. Et la médecine, c'est juste une des plus belles disciplines de l'âme humaine, on est bien d'accord. On est bien d'accord. 20 ans, c'est court au regard de l'histoire de l'humanité, c'est demain. Oui, Letty dit, mais moi, je n'ai pas le temps, moi. Moi, c'est maintenant les cheveux que je voudrais, moi. Tant qu'on perd le Groenland, mais j'en ai rien à carrer du Groenland, moi, Gossimaniac. C'est des cheveux que je veux, moi. Qu'est-ce que tu me. Il y en a marre à un moment de se retenir. Moi, je dis, il faut dire vraiment les termes. Trump, take my Groenland et give me something for my hair. Non, mais à un moment, faut des priorités, quoi. Exactement, j'ai pu. Il a changé sa mutienne. Un petit peu, vite fait. Et. Tout ça pour faire quoi? Pour vous faire une transition de fou, les gars. Mais ouais, tout ça c'est calculé, c'est pensé. Tu penses. Ne faites pas ça à la maison, c'est hyper dangereux. Je parlais du Groenland, bim, on va en Antarctique. Allez! Voilà. Et oui, Jean-Louis Étienne, forcément un goat, vu son patronyme, son nom de famille. Voilà. Encore une exploration, encore une expédition pour l'explorateur et médecin Jean-Louis Étienne. C'est dans l'Humanité qui part mardi, le mardi dernier. Pour une mission scientifique dans l'Antarctique à bord du Persévérance, en prélude à une autre expédition baptisée Polar Pod, nom d'une plateforme océanographique mouvante habitée qui parcourra l'océan austral. C'est un très vieux projet qui est assez fascinant. Jean-Louis Étienne, tout le monde le connaît.
Il n'est pas aussi connu que l'autre, Étienne, bien sûr, mais quand même, l'explorateur médecin qui part ce mardi 20 janvier pour une mission scientifique. Il va rester 3 semaines dans la mer de Ross pour analyser les effets de son statut d'aire marine protégée sur l'activité biologique et tout le vivant. Puis après, il ira vers la mer du Mont-Durville pour y récolter des infos pouvant servir de base à la négociation d'une autre aire marine protégée pour cette zone. En vrai, c'est cool. Moi, ce que j'aime bien, c'est le gars est plutôt jeune. Hein, Jean-Louis Étienne, il a quel âge ? Plutôt jeune. Il y en a beaucoup des Étienne. Bon, c'est vrai. Jean-Louis Étienne. Moi, je dirais un bon 74, non ? Fais voir. 79. Eh ben, c'est beau, je trouve. Et le gars, il part sur son bateau. Voilà. Pour ceux qui ne le connaissent pas, donc c'est lui, très sympa en plus. Médecin explorateur français, connu pour ses multiples expéditions en Arctique. Il a été le premier homme à atteindre le pôle Nord en solitaire en 1986 et en Antarctique, notamment la Transantarctica. Ah, par contre, vous aviez pas la scène. Là, vous avez la scène. Non, vous l'avez pas ? Ah, bah, j'ai pas mis la bonne. Voilà. C'est-à-dire qu'on est en train de rendre la vue aux souris, mais je l'ai enlevé au viewer. Donc, qu'est-ce qu'il fait ce monsieur à 79 ans ? C'est assez fascinant. Alors, PolarPod, donc cette expédition scientifique que va permettre de préparer un petit peu plus celle qui vient de partir là, c'est cette station verticale, vous avez peut-être vu des images, qui va dériver autour de l'Antarctique. Station verticale, tu sais, avec une espèce de truc qui dépasse, qui fait un peu stabilisateur, et en dessous il y a une station. Ah, vous n'avez pas la scène. Alors, c'est la vieillesse, ça. Et il y a une station sous-marine qui, c'est incroyable. Et donc là, il est sur Perseverance, qui est le bateau qui a été conçu pour accompagner PolarPod. Vous partez dans une région dangereuse. Le gars a 79 ans quand même. Demande l'humanité. Pas tant que ça, on parle avec des scientifiques français, néo-zélandais, américains. Aussi avec des marins. Perseverance, c'est un bateau de 42 mètres, vous l'avez ici. C'est un beau bateau. Hein. Regardez. Ça a de la gueule. Hein. Vous avez vu ? C'est magnifique. Un bateau de 42 mètres avec un équipage pro de 7 personnes. 20 personnes peuvent embarquer. Je l'ai fait construire avec Elsa, mon ancienne épouse, avec qui je travaille depuis 25 ans. On va en mer de Ross, dans l'océan Pacifique Sud, où j'ai déjà été avec un autre bateau, Antarctica. Dès qu'on s'approche de l'Antarctique, surtout dans ce secteur, on doit se frayer un chemin entre la glace. Persévérance n'est pas un brise-glace, voilà, mais il faut écarter les glaces dérivantes. C'est une aventure quand même dans un coin isolé de la planète. Alors, comme l'humanité lui a demandé, est-ce que c'est dangereux ? Il dit, bon, non, alors on peut se blesser sur un bateau quand il y a beaucoup de vent et de vagues, dit-il, mais il n'y a pas de médecin à bord, mais comme lui, il est médecin, il dit, je pourrais éventuellement faire quelque chose. Voilà. Quelle mission scientifique allez-vous accomplir dans cette aire marine protégée ? Voilà. Attends, j'ai loupé l'explication. Ah, c'est ici. Perseverance fait partie des navires modernes, multi-instrumentés. Par exemple, on a en permanence une aspiration de l'air en tête de mât. L'air est analysé en continu. On parlait de pollution atmosphérique tout à l'heure. On a aussi un instrument qui aspire l'eau de mer, analyse sa température, sa salinité, sa teneur en oxygène, en gaz carbonique, son acidité. On a des systèmes d'écoute qui enregistrent tous les sons de la faune marine, cachalot, baleines à bosse, orques. Voilà. Il y a aussi des personnes à bord qui, avec des filets, collectent, identifient le plancton et sa richesse. Idéal dans toutes les navigations de persévérance, cette acquisition de données essentielles pour un suivi permanent de l'océan. Il y a Magic Pimousse qui dit j'aimerais bien être capable de faire la même à 80 balais. Moi, 80 balais, je serais au coin de la cheminée, hein, à lire des bouquins et manger des chocolatis. Tu vois, par exemple, ils vont étudier le krill. Tu sais, les petites crevettes, là. La nourriture des baleines, notamment. Voilà. Parce que dans la région où il va, il y a une activité de pêche importante, notamment de krill. Et il dit, voilà, si vous pêchez le krill dans ces zones-là, petit à petit, elles ne vont plus rien avoir à manger, les espèces qui se nourrissent de ce krill, ce qui aura des conséquences sur la survie. Celui qui vient d'écrire Apollo Krill dans le chat, je t'ai vu. Krill, petit crustacé. Alors, quel intérêt de pêcher du krill microscopique, cette bif? Très bonne question, mais la réponse est dans l'article. Le krill est un petit crustacé de 4 à 6 cm de long, semblable à une crevette. Les baleines en raffolent. C'est la clé de voûte du réseau alimentaire de toutes les espèces animales de l'océan astral. Pêcher ou surpêcher le krill, c'est mettre en danger toute la faune polaire de l'océan austral. Pourquoi pêche-t-on le krill? Très bonne question, c'est des bifs. Utilisé pour la pisciculture industrielle, hein, l'élevage de poissons. Pour en faire de la farine de poisson pour les élevages du saumon notamment. Eh ouais. Ouais. Le krill est aussi riche en oméga 3 et oméga 6 l'industrie fabrique des compléments alimentaires avec. Il ne faut pas supprimer la nourriture pour toutes les espèces animales, sinon ce sera leur effondrement. Il y a Monsieur Numa, c'est son premier message sur cette chaîne, qui dit « Tu veux pas devenir le papy réac à 80 ans, c'est le bon âge. » Mais je suis déjà réac. Je suis déjà papy réac. J'ai déjà fait ça. J'ai décidé que j'ai pris 30 ans d'avance là-dessus. Vous dites que la jeunesse a besoin de rêves et de modèles pour résister à la tentation de l'abandon. C'est vous, ça, la jeunesse. Moi, c'est loin derrière moi. En effet, je vous résume ma vie, je n'avais pas les notes. Alors, c'est aussi pour ça que je voulais vous lire l'article. Le gars, il est médecin. Le gars, il est scientifique reconnu, tout le monde l'adore. Bon, c'est un scientifique, explorateur, médecin, etc. Écoutez son histoire. Je vous résume ma vie. Je n'avais pas les notes pour entrer en sixième. Donc, j'ai fait ce qu'on appelait le certificat d'études primaires. Après, j'ai suivi une formation professionnelle de tourneur-fraiseur. J'avais 13 ans. J'étais en pension dans un collège. On avait 40 heures de cours par semaine, dont 16 heures d'atelier. On faisait du dessin industriel, des technologies, des matières générales, du français, des maths, que j'ai commencé à aimer. Alors la prof de maths m'orientait vers une seconde, préparant un bac dit de technique mathématique. Et après le bac, j'ai fait médecine. Voilà. Je me suis beaucoup appris à moi-même, voilà pourquoi la transmission pédagogique fait partie de mon parcours. La Terre souffre d'une fièvre chronique, c'est le médecin qui vous parle, on peut se plaindre, mais il faut devenir des acteurs de la solution. Pas mal son parcours. Hein. Est-ce que vous avez un message à adresser aux politiques qui, comme aux États-Unis, suivez notre regard, remettent en cause les institutions scientifiques? Alors là, on ne sait pas du tout à qui pense l'humanité. Alors, quel pourrait être le responsable politique dans un grand pays comme les États-Unis qui pourrait remettre en cause les institutions scientifiques, les recherches, les programmes de recherche? Qui a le droit? Personne. Ça n'existe pas, ça. Fake news. Hein? Imagine un président, américain au hasard. Imaginons un président américain qui, parmi les premières décisions de son deuxième mandat, déciderait de sabrer dans tous les programmes de recherche scientifique. On rigolerait. Imaginez ce même président qui nommerait ministre de la Santé un anti-vax. Et là, vous me dites impossible. Bah, oui, je suis d'accord, c'est tout à fait impossible. Donc, l'humanité pose cette question très étrange au docteur. Avez-vous un message adressé aux politiques qui, comme aux États-Unis, remettent en cause les institutions scientifiques? Et il répond: je pense au Groenland. Il y a 56 000 habitants. Des pêcheurs qui se déplacent par bateau dans ce territoire immense où il fait nuit 4 mois par an, où il fait froid. On se demande pourquoi ils vont. Qu'est-ce qu'ils foutent là-bas, mais peu importe. C'est une population très soudée. Les Américains ont là une station militaire, ils n'ont pas besoin de plus. Pop, pop, pop. Jean-Louis, toi, tu vas te prendre une interdiction d'aller sur le territoire américain, toi. Voilà. Tu vas recevoir un petit mail de la Maison Blanche. Les Américains ont là une station militaire, ils n'ont pas besoin de plus. Je crois que c'est une conquête territoriale que veut Trump. Il sort aussi les Américains de toutes les structures internationales de l'ONU et même de l'Union internationale de la conservation de la nature et de l'accord de Paris sur le climat. Trump, il est sorti deux fois de l'accord sur le climat. Il est sorti lors de son premier mandat une fois, Biden est revenu, et une de ses premières décisions quand il a été réélu, c'est qu'il est ressorti de l'accord sur le climat. Je vous rappelle que selon Trump, le changement climatique est une fake news. C'est un complot. Notamment des Européens, pour affaiblir la puissance américaine. On dirait que la science et les progrès scientifiques sont les ennemis de Trump et des obscurantistes. En France, on n'en est pas là. Mais aux États-Unis, la première puissance mondiale, c'est vrai, et ça fait peur. Bon, désolé, c'est Hervé Presse des Bonnes Nouvelles, mais... Voilà. Oui, des Chinois aussi, c'est aussi un complot des Chinois.
Enfin, c'est un complot de tous les gens qui disent qu'il y a un changement climatique, quoi. Bon, tout ça, ça nous dit pas quand on aura un médicament pour faire pousser les cheveux, mais je trouve ça plutôt intéressant. Hier, on a parlé du wagon sans enfant de la SNCF. Léopold Le Marchand, anciennement la Pérave, a fait un sketch sur ça sur Insta. C'est drôle, ça en dit long sur le sujet. Vous voulez qu'on fasse un détour par ça? Sur Insta? Truc de jeune, ça. Insta, il est où ton Léon, là? Il est où, attends? Je trouve ça drôle. Oh merde, je l'ai perdu. Léon! Léopold Le Marchand. C'est pas un nageur, ça? Léopold Le Marchand. C'est pas le nageur français qui va très vite, là? Tu veux quoi? Tu confonds, non? Je le confonds, je pense. Non. Alors. Ah, je l'ai pas le clip. Faut que j'aille sur son Insta, je pense. Ah, merci, Sugar. Ah, je l'ai. J'ai pas de son. Attends, putain, c'est chiant, Insta, là. Pourquoi j'ai pas de son? Ah, je l'aime bien, lui! Je l'aime bien, cet humoriste! Oui, là.
Non, je dis, on est quand même.
Ah, j'ai réussi. Je l'aime bien, ce humoriste. Alors, attends, hop. Alors, quoi? Mais comment on remet à zéro sur Insta? C'est nul. Attends, faut que j'aille sur son compte. Je vais y arriver. C'est nul, Insta. Hein. C'est vraiment un truc de yeuf, ça.
On est quand même mieux sur les gosses.
Pardon?
Non, je dis, on est quand même mieux sur les enfants qui chialent.
Ah, oui.
Oui. Allô? Là, tu m'entends? Oui, ça fait 2 semaines que je te demande de me shooter le mail récap, là. Donc, en termes de livrables, j'ai peur qu'on se charrette. Hein. Ouais. Merci, je te rappelle.
Alors, je vous donne le contexte. Hier, on s'est pris de passion dans la revue de presse pour plusieurs articles qui évoquaient le fait que la SNCF avait développé une nouvelle classe un peu chic, à faire un peu, voilà, interdit aux enfants. Voilà. Bon, il y a des associations qui sont mobilisées en disant quoi? Des espaces publics interdits aux enfants? C'est quoi cette France que vous voulez? Bordel, etc. Donc, ils ont reculé, ils ont dit ok, aïe, j'ai mal à la tête. Interdit aux moins de 12 ans. On a parlé longuement et on s'est. On a beaucoup ri, et du coup, ce sketch est assez drôle, puisque moi pour prendre énormément le train, je suis beaucoup plus gêné, en termes de bruit, par monsieur le cadre supérieur, je sais pas quoi, là, qui passe des coups de fil sur le dernier mail urgent, sur le dernier devis de je sais pas quoi, là, hein, ou machin qui écoute sa musique, avait oublié de mettre son casque, que par les enfants. Mais bon. Le sketch était assez rigolo. On va pas refaire le débat, par contre, si ça vous intéresse, on en a parlé pendant genre une heure hier. Mais il est bien Léopold Le Marchand, non? Il est drôle, c'est. Attends. Il est drôle ou pas?
Ma mère m'a demandé que je lui organise un enterrement festif. Je lui ai dit, mais maman, ce n'est pas possible, quand tu vas mourir, ça va être terrible, je pourrais pas faire semblant de faire la fête. Et elle persiste, elle signe, elle veut que je lui fasse un enterrement festif. Eh ben, très bien, maman, je vais te faire un enterrement festif. Bonsoir. C'est le cœur lourd que nous sommes tous réunis ce soir pour rendre un dernier hommage à une femme exceptionnelle. Je veux bien sûr parler de ma maman, Sylvie. Merci pour elle. Aujourd'hui, je ne peux m'empêcher de ressentir le poids du regret, ce désir ardent de retourner en arrière. Pour pouvoir. Pour pouvoir savourer. pour pouvoir pour pouvoir savourer encore une fois ces instants de bonheur et de joie. L'annonce de ton décès a été pour moi un choc, un véritable coup de massue. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il me reste de toi ? Des éclats de rire, des albums photos, mais surtout les valeurs que tu m'as transmises. Cette perte de ma mère bien-aimée qui survient si peu de temps après celle de ma grand-mère. Est une épreuve déchirante qui nous confronte à la fragilité de la vie et à la douleur du deuil.
Et en fait, le chat m'a rappelé, c'est Hélène Ananas dans le chat qui m'a rappelé que j'ai fait une émission avec lui, je n'ai aucune mémoire, sur le cinéma, Tapis Jaune, cet été, à la fin de l'été, au début de l'été, je ne sais plus. Et il était très sympa, et je ne connaissais pas son œuvre, je l'ai juste trouvé très sympathique en tant que partenaire d'émission. Mais maintenant, je découvre qu'il est juste génial. Ok, merci. C'est décidément la revue de presse des bonnes nouvelles. Voilà. Bon, pas mal, hein, tout l'article dans l'humain, là. Tout le monde connaissait cet humoriste ? Il parle beaucoup de la mort dans son spectacle, il assume en avoir très peur, dit Japunch. On en a beaucoup parlé hier, j'étais invité du podcast de Julien Méniel. Julien Méniel, vous savez, qui est un ancien infirmier, qui est aussi un ancien journaliste, et puis qui est devenu streamer, youtubeur plutôt d'ailleurs, et créateur de contenu, et podcasteur. Et en podcast, il a un format d'interview qui vient de débuter, qui est super. Il m'a invité pendant 2 heures hier, c'est son prochain podcast, voilà, et c'est vraiment sa vie, son œuvre. Donc, n'écoutez pas ça, c'est super chiant. Pendant 2 heures, j'ai raconté ma vie, y compris des trucs que j'avais jamais racontés. Et du coup, on a parlé de ça, on a parlé de la mort. Parce que c'est des questions très intimes. On a beaucoup parlé il m'a posé des questions sur la sexualité aussi. Il m'a posé des questions sur la sexualité. Sur ma sexualité. Est-ce que j'ai répondu ? Suspense. Voilà. Et aussi sur le caca. On sent l'ancien infirmier, tu vois. On a parlé de caca aussi. Qu'est-ce que j'ai là ? Un papier. Et puis, et du coup, on a parlé de la mort aussi. Il m'a demandé si j'avais peur de la mort. Et c'était vachement intéressant. Voilà, super interview. Voilà. N'allez pas écouter ça en vrai. Lui est vraiment un excellent intervieweur. Merci, mademoiselle Nunuche. Voilà. Le teasing de la mort qui tue. Exactement. Vais-je mourir un jour ? Vous le saurez. Dans un prochain stream. Voilà. Oh, imagine, je meurs en stream en direct. Est-ce que c'est déjà arrivé, ça ? Merci. Mademoiselle Nunu, vous étiez sur quoi comme contenu ? Ah, vous seriez au courant avant tout le monde, quoi. C'est le ban assuré. Oh bah non ! Bah oui ! Oh bah attends, j'espère quand même. La chaîne serait ban ? Oh bah non, t'imagines ? Ça, ce serait vraiment con, hein. Ça ferait des vues, oui, mais je m'en... C'est déjà arrivé tristement, ça. Oh ! Jean Pormanov. Ah ouais, putain, sur Kick. Pas sur Twitch, mais sur Kick. Oh, Jean Permanov, bien sûr. Mais oui. C'est les cinémas, le samedi. Des bonnes nouvelles. Bien joué, Samuel Etienne. Ah ouais, ah là, je m'en veux, là. La boulette, j'avais oublié Jean. Eh oui, c'est monstrueux, ça. Je vous montre la chaîne qui vient de nous raid. Parce que du coup, ça va nous remonter le moral, puisque Mademoiselle Nunuche qui vient de nous raid, elle est là. Voilà. Ici, on joue, on discute, on partage la bonne humeur, on est une communauté très chill. Donc, n'hésite pas à rejoindre notre famille. Voilà. Et je vois que je ne te suis pas. C'est quand même très problématique. Et maintenant, je te suis. Mademoiselle Nunuche, en vrai, c'est joli. Et, ouais, une très jolie idée, ouais. Oui, oui, c'est vrai. T'as 18 ans ? Mais tu es toute jeune ! Coucou, moi c'est Margot, j'ai 18 ans. Ah bon ? Je suis une jeune créatrice de contenu pleine d'énergie. Mais la question qu'on se pose, excuse-moi Margot, mais où trouves-tu toute cette énergie ? Je suis une jeune créatrice de contenu, pleine d'énergie, ici pour partager mes fous rires, mes fails et mes bons moments avec vous. Eh, c'est une description qui fait envie. Sur ma chaîne, on joue, on papote, surtout on rigole à cause de mes bêtises, mais c'est trop mignon. Mais vous allez me follow cette chaîne massivement, s'il vous plaît. Si tu cherches une communauté bienveillante et familiale, bienvenue parmi les nunuches. Mais c'est l'une des meilleures descriptions de chaîne que j'ai jamais vues. Attends, hop, je vous la colle. Bim. Voilà, bah c'est en haut. Vous avez juste à cliquer en haut et vous avez la chaîne de Mademoiselle Nunuche. Merci, bravo à toi. C'est Draco qui vient d'offrir un abonnement à Mademoiselle Nunuche. J'en étais sûr. Merci Draco. Merci Cocolule. Merci The Kiwi. Merci Moisinc. Voilà. Bah, n'hésitez pas à aller à follow cette chaîne qui nous promet plein de jolies choses. 18 ans, c'est beau. Hein. C'est beau. Hein. Voilà. Merci pour les follow. Allez-y les gars. Bam, 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 bam. Ah tiens, nous échangeons avec une streameuse. On va parler maintenant de femmes scientifiques. Voilà, on est dans la revue de presse des bonnes nouvelles. C'est le samedi. Profitez-en. Lundi, on repart avec les mauvaises. De rien, mademoiselle Nunuche. Merci beaucoup pour ton aide surtout. Regardez, la reconnaissance des femmes scientifiques. Le nombre de MP qui lit pas le SAM. Alors, MP, donc pas dans le chat alors. Tu m'envoies des messages perso? Tu m'envoies des messages perso? Tu m'envoies des messages? Tu m'envoies des chuchotements? Tu chuchotes? Moriochem, dis-moi. Tu chuchotes, mais j'ai pas lu. Parce qu'un MP, c'est un chuchotement, hein, c'est ça, hein, d'accord. Parce que un MP, c'est un message personnel, donc tu parles pas du chat. Raconte-moi. Qu'est-ce que tu m'as raconté? Tu m'as demandé des sous? Tu m'as demandé de la thune? Il n'y a pas de scène. On lit pas l'article, on discute avec Moriochem. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Tu m'as envoyé des frais médicaux, tu m'as demandé ma carte vitale. Comment ça se passe? Raconte-moi. Qu'est-ce que j'ai pas répondu? Je suis en train de pleurer, tu m'as fait passer les 1500 follow. Mais tu le mérites, c'est tout. Je chuchote pas, mais j'ai vu le nombre. Ah, le nombre de messages privés auxquels je réponds pas. J'avoue, je manque de temps. Mademoiselle Nunuche, maintenant je connais ta chaîne, je te follow, et surtout je viendrai te voir. Et j'espère que j'aurai l'occasion de te rendre la gentillesse, à savoir le raid que tu viens de faire. Alors, parlons des femmes scientifiques. Ni vu ni connu, joli titre. C'est dans les échos de vendredi. L'histoire des sciences est écrite au masculin. Des millénaires de découvertes de l'effet de serre à la structure de l'ADN sont pourtant le résultat de travaux de savantes, de femmes scientifiques. Et il y a un essai, bah bravo, qui s'appelle l'effet Mathilda, qui raconte ces scientifiques oubliés. Lisons. Marie Curie, Giga Chad, exactement Bewick. Bon, c'est pas le mot que j'aurais utilisé, Giga Chad, du coup, mais ça fonctionne. Article de Margot Boult. Pouvez-vous citer un scientifique? Bah, facile. Hein. Newton, Einstein, Galilée, Lavoisier. Mais pouvez-vous nommer une femme scientifique? Alors, Marie Curie est souvent l'unique exemple spontanément cité. Pourtant, d'Hypatie d'Alexandrie à la généticienne Barbara McClintock, les femmes aussi ont été de grands savants. On dira des gigachadettes. Exactement original, Pimous. Pas des gigachades. Des gigachadettes. Je valide. Comment ça, gigachad, c'est un concept unisexe? On peut dire gigachad d'une femme? Vous êtes sûr de ça? Vous êtes sûr de ça? Ou c'est une fake news? Gigachad, c'est un concept unisexe. Les femmes peuvent être gigachad de sources sûres. For sure! Vous êtes sûr de ça? Ouais, pourquoi pas en vrai? Ok, recherche. Ici, on est sur une chaîne de la rigueur, une chaîne de la recherche, une chaîne de la confrontation des idées. Gigachad, c'est parti. Giga, j'ai gigabit, j'ai gigaset, j'ai Gignac, le footballeur. Mais oui, gigabit, le truc d'informatique là, faites exprès ou quoi? Voilà, c'est fou, vous faites aucun effort. Hein. Alors, que veut... Gigachat, dictionnaire, Radio France. Ah, voilà, ça c'est un gigachat, ça. Ils sont pas tellement... Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Deux dérivés de Tchad. Avec le préfixe giga. Merci. Merci. Ok. Mâle alpha. Homme qui domine tous les autres. Merci l'information, comme quoi Giga Chad, ça s'applique parfaitement aux femmes. Merci beaucoup pour la qualité de cette information. Merci. Voilà, argot internet.
Mâle alpha, homme qui domine tous les autres. Merci pour la qualité de cette définition de source sûre. Hein. Voilà. Exemple, deux points, volets guillemets. La légende arrive, celui qui a joué en finale de The International 2018 est juste le Giga Chad qui a joué avec 4. On ne comprend rien à la phrase. Voilà, c'est de l'intérêt de toute façon. Alors, Bewick n'est pas d'accord. Giga Chad, c'est l'équivalent de la culture internet pour dire une personne courageuse, brave, Wiktionnaire n'est pas à jour. Vous êtes sûr que c'est la définition de Giga Chad, ça ? Personne courageuse et brave ? C'est pas plutôt l'archétype du gars un peu bonhomme, mâle, avec sa grosse mâchoire carrée, là ? Kratos, quoi. Ouais, on est d'accord, c'est plutôt ça. Hein. Ouais. Que dit l'Académie française ? Je crois que l'Académie française ne dit rien de Giga Chad. C'est ça le problème. Oui, mais c'est détourné. Ouais, ok, je veux bien croire. Ok, je vais tester le truc ce soir. Je vais rentrer à la maison après le live. Je vais dire à ma femme, tu sais que t'es un gigachad, toi. Je vais même pas lui dire t'es une gigachad. Je vais lui dire, tu sais que t'es un gigachad et on verra ce qu'elle va me dire. Voilà. Je vous préviens, si elle le prend mal, eh ben ça va chier des bulles. Et j'irai voir le replay de ce live. Et j'irai voir les pseudos. Des gens qui ont dit t'inquiète, c'est cool et tout, c'est les gens courageux, tout ça. Et je peux vous dire que je vais vous retrouver. C'est-à-dire que dans la nuit, IRL, vous allez entendre un petit bruit qui va être un petit bruit de sonnette. Hein, ou qui va être un si vous n'avez pas de sonnette. Ou un si vous avez un interphone. Et là, vous allez vous dire, mais à 2h du matin, c'est qui ? Eh bien, ce sera moi. Eh bien, ce sera moi. Et je viendrai pour vous dire qu'il va falloir qu'on cause. Voilà. Assieds-toi, déjà. Et baisse les yeux. Voilà. Exactement. Bon. Comment ça, une touffe grise au niveau du Judas ? Quoi ? Quoi ? C'est-à-dire que tu m'imagines en train de sonner à une porte à 2h du matin et tu penses que ce que la personne verra, c'est une touffe grise qui dépasse légèrement au niveau du Judas ? Un Gremlins, quoi ! Un Gremlins ! Alors, il y a Red Foxy qui me dit que Giga Chad est inspiré d'un véritable mannequin de fitness qui s'appelle Ernest Kamilov. Let's go. Ouais. Il y en a chez qui je vais venir sonner, hein, je peux vous dire. Les gars de la mèche grise, là, je peux te dire que ça... Soyez pas surpris, ça sonne chez vous cette nuit. Hein. Alors, à quoi il ressemble ce monsieur, ce Giga Chad ? C'est un vrai mec ? Mais je crois que c'était un dessin, moi, ce gars-là. Lui, là ? L'image du Giga Chad, c'est un vrai gars ? C'est Ernest Kamilov ? C'est un Russe ? Il existe ? Les gars en podcast audio, là, je vous le décris. C'est pas une mâchoire, c'est un autobus. Ah, mais il a expliqué que cette image qu'on utilise de lui, elle est retouchée, c'est Photoshop. Ah, le voilà en vrai. Ok. Encore, ouais, d'accord. Pff, la vache. Dis donc. Waouh. Ah, quand même, hein. Ah, c'est ça, c'est le Giga Chad originel. Incroyable. Mais là, c'est quoi ça ? C'est mais c'est et ça c'est quoi ? Mais c'est comment ça ? Je l'ai connu une nuit à Ramatuelle il y a 5 ans, Marine. Mais de quoi tu parles ? Mais qui est cette personne ? Incroyable. Au nom de Dieu. Ok, d'accord. Ses bras font la taille de mon corps. Ok. Bon, on a fait un petit détour. On revient aux femmes scientifiques. Donc, un livre qui nous explique que, eh bien, il y a plein de femmes, des savantes, des chercheuses, des scientifiques, qui ont marqué l'histoire de la science, sauf que l'histoire ne leur a pas rendu hommage. À cette invisibilisation du travail et de l'existence même des femmes de science, l'historienne Margaret Rossiter donne le nom d'effet Mathilda. Du nom de qui ? Mathilda Jocelyn Gage, activiste de la fin du 19e qui s'était vu refuser le droit de faire des études de médecine parce qu'elle était une femme. Cette minoration s'étend aux arts et à la politique, comme le montre l'essayiste Titiou Lecoq dans Les Grandes Oubliées, déjà préfacé par Michel Perrault. Mais l'effet Matilda se concentre sur les sciences, domaine ô combien verrouillé par le masculin. Pendant des siècles, les générations de femmes ont été interdites d'entrer à l'université. Quand les premières, comme l'allemande Emmy Noether, ont réussi au début du XXe à intégrer chair et laboratoire, on les a cantonnées au rôle de petites mains. Reste donc là, par là. Et tu m'apporteras un café, s'il te plaît. Par une galerie de portraits admirablement documentés, Louis-Pascal Jacquemont remet ses précieuses collaboratrices dans la lumière de l'histoire grâce à des biographies pleines d'anecdotes. Voyage à travers les siècles, de l'Antiquité à la NASA, pour rappeler leur ingéniosité et leur audace. Jeanne Barret en est l'un des meilleurs exemples. Déterminée, la botaniste se déguise en homme en 1766 pour intégrer l'expédition autour du monde de Bougainville. Contrairement à ce que l'histoire a retenu, c'est elle, et non à son mentor, Philibert Commerson, qui était retenu à bord du bateau par un ulcère, qui découvre au Brésil la fleur qu'elle nomme Bougainvillée.
Voilà. Incroyable.
Incroyable. C'était une dame. Mais on lui a volé la découverte. L'historien spécialiste des femmes et du genre, déjà auteur d'une biographie d'Irène Joliot-Curie, démontre que pour voir son intelligence oubliée, rien de mieux que d'être la conjointe d'un homme célèbre. Émilie du Châtelet en est témoin. Connue pour sa liaison de 15 ans avec Voltaire, la physicienne a aussi écrit le premier ouvrage jamais publié récompensé par l'Académie royale des sciences sur la nature du feu et sa propagation. En 1944, le directeur du Princeton refusait la candidature de l'astronome Vera Cooper Rubin sous prétexte que, je cite, 1944, la science n'a pas besoin de femmes. Allez, bim ! C'est pourtant une Ava qui a écrit le premier programme informatique au monde, une Eunice qui a démontré l'effet de serre, une Rosalind qui a révélé la structure de l'ADN. Des avancées attribuées quelques années plus tard à des hommes. Eh ben, c'est pas joli. C'est pas joli, joli. Certaines découvreuses, comme Marthe Gauthier, se sont fait ouvertement spolier. Pas spoiler, spolier. En 1958, la Française est la seule chercheuse de son laboratoire à maîtriser la culture cellulaire. La technique lui permet de découvrir que les enfants dits « mongoliens », comme on disait à l'époque, il y a des gros guillemets, hein. C'est la trisomie 21, mais c'est comme ça qu'on disait à l'époque, possèdent un chromosome supplémentaire. N'ayant pas de photomicroscope pour faire une preuve de cette découverte, elle confie ses lames à son collègue Jérôme Lejeune. Elle ne les reverra jamais. Lejeune garde les trucs et signe l'article sur la découverte de la trisomie 21 en tant que premier signataire. Mais le professeur Lejeune, moi je connais, moi. La communauté scientifique mettra un demi-siècle à réhabiliter la chercheuse. Eh ben dis donc, c'est du joli. Tenue à l'écart des publications et des postes de direction, les femmes le sont aussi des récompenses. Elles représentent moins de 3% des lauréats de prix Nobel scientifiques. Avec des oublis incontestables comme Lise Meitner pour la découverte de la fission nucléaire, ou Jocelyn Bell Burnell pour celle des pulsars. Des découvertes que Louis-Pascal Jacquemont, pédagogique, rend compréhensible aux néophytes. Ça, c'est nous, ça. L'histoire corrige heureusement sa trajectoire. C'est là où on est un petit peu dans la bonne nouvelle. Le livre s'appelle, c'était-vous, il s'appelle L'effet Matilda de Louis-Pascal Jacquemont. C'est aux éditions Odile Jacob. Ça vient de sortir. 464 pages. L'histoire corrige heureusement sa trajectoire. En 79, la mathématicienne Yvonne Choquet-Bruat est la première femme admise à l'Académie française des sciences. 1979, les gars. Merco aussi, c'est à vous. Depuis, le nombre de lauréats de prix Nobel scientifiques a été décuplé. Deux mathématiciennes ont reçu la prestigieuse médaille Fields. Merci, tonton Patator. Le grand public découvre progressivement ces figures de l'ombre, comme les calculatrices afro-américaines de la NASA en 2017. Ah oui, j'ai eu un très beau film là-dessus. Dans le film de Théodore Melfi. Mais les femmes représentent encore moins d'un tiers des scientifiques en Europe et dans le monde, offrant peu de modèles aux jeunes intéressés par les sciences. Pour que les femmes puissent se projeter, les jeunes femmes, les fillettes, les filles, les ados, les jeunes femmes puissent se projeter vers des carrières scientifiques, encore faut-il qu'elles puissent voir des femmes, hein, bien sûr, dans ces carrières. Classique. En France, depuis la dernière réforme du bac, l'effectif de filles qui suivent des cours de maths a chuté de plus de 50%. Marie Curie, elle-même, aurait pu en être effacée. En 1903, la proposition initiale faite au comité Nobel pour la découverte de la radioactivité ne citait qu'Henri Becquerel et Pierre Curie. Bam ! Il a fallu l'intervention déterminée de Pierre Curie pour faire inclure sa femme, la première de l'histoire à remporter le prix. Plus d'un siècle plus tard, plusieurs chercheuses comme la physicienne belge Ingrid sont des lauréates potentielles au prix Nobel de physique 2026. C'est fou, hein ? La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on commence à en parler. De plus en plus. L'histoire du professeur Legendre, là, qui, sur la triste 2021, c'est une dinguerie. Hein. Dobchi, merci Tim. Putain, la qualité du chat ici. Il y a Tim qui dit c'est Madame Dobchi. Elle a travaillé sur les ondelettes en traitement du signal et en maths. Les ondelettes. Moi, tu me dis les ondelettes, je dis qu'est-ce que c'est, ondelette ? Est-ce que c'est une omelette qui fait des ondes ? Une omelette un peu baveuse, tu sais, qui est un peu comme ça. Pas une omelette comme ça, straight. Mais une omelette un peu comme ça, tu sais, un peu travaillée à la cuillère en bois, tu vois. Entre omelette et eau brouillée, finalement, ondelette. Eh ben non, c'est un truc scientifique. Ouais, bon. La qualité de la commu, quoi. C'est fou. Moi, ça me fascine. Je ne sais pas d'où vous venez, je ne sais pas qui vous êtes. C'est important pour le son et l'image, d'accord. Ondelette, c'est pas un présentateur TV. Si, aussi, ouais. Christophe Ondelette, tout à fait. Exactement. Donc phénomène physique, forme d'omelette et présentateur télé. Tout à fait. Quelle communauté. Pas mal l'article là. Hein, voilà. Ah, le monde entier est un cactus. Le grand cactus, c'est une émission humoristique belge. Voilà. Vous savez quoi ? On leur envie. Est-ce qu'il y a des Belges dans le chat ? Hop, article suivant. C'est dans le Parisien. Est-ce qu'il y a des Belges dans le chat ? On vous envie cette émission. On la voudrait. Oui ? Ouais ? De Waku Fouf ? Valrav, Belge ? Serge, Belge ? Andermax Socaris, Belge ? Maffine, Belge ? Adankar, Belge ? Il n'y a que des Belges. J'ai que des Belges. Levez la main les Français là, ou les autres, peu importe. Presque, je suis en demande de nationalité. Il y a quelques Français quand même. Ok. Breton? Non, on a dit Français les gars. Ok. En deux mots, les transfos en ondelettes permettent de passer du plan spatial au plan fréquentiel pour compresser ensuite les images. Ok, Weasel, merci. J'ai tout compris. Merci, Bourle. Merci, c'est super clair. Merci à toi, en vrai. Donc, ça, les Belges, moi, je vous envie cette émission. La France se pique de ce cactus. Diffusé sur la RTBF, le talk show à sketch, présenté par Jérôme Devarzé et Adrien Devivert. J'espère que je prononce bien les patronymes. Avec des séquences mordantes, brocardant des personnalités politiques, tourne au phénomène. Alors, notamment, ils ont des imitateurs. Merci Corgan. Ils ont des imitateurs. Et en fait, moi, j'ai été invité de cette émission que j'ai découvert. Donc, il y a quelques mois, j'ai été invité. J'ai passé un très bon moment. L'équipe est géniale. Mais vraiment, ils sont formidables. Et c'est vrai qu'en France, on n'a plus tellement d'émissions où notamment ça imite les politiques. Il y a beaucoup de jeunes humoristes qui font des sketchs à tendance humoristique sur Radio Nova, là, c'est la régalade en ce moment. Hein. On peut voir les images de ton passage ? Ouais, potentiellement, c'est parce qu'il y a eu une meilleure dans l'émission, mais hein, sur Radio Nova, il y a toute une bande d'humoristes là, qui parlent beaucoup de politique, mais pas sur... mais il n'y a pas le côté imitation, quoi. Et puis cette émission, c'est bien plus que l'imitation, ça parle en tous les sens, et ça parle beaucoup de la France. Alors ça, c'est un truc très intéressant, parce que c'est une émission belge, mais... nos amis belges ont quand même un regard assez acéré et intéressé par la vie politique française. Et du coup, ils parlent beaucoup de nous. Voilà. Lisons l'article et puis on ira voir les extraits, ça va être la régalade. Les derniers bastions de la satire française, disait Macaroni. Je sais pas si j'ai vu juste des extraits de mini-Trump. Ah oui, il y a eu un Trump, ouais. Riposte, très bien, j'adore ça. Mais j'adore Marceau.
Marceau nous dit qu'il faut aller regarder la riposte avec Hakim Omiri, plein d'extraits sur Instagram, quand vous aurez le temps, allez jeter un œil. Tu sais quoi? On va regarder les extraits de Cactus, Marceau, et après tu me rappelles, on ira voir la riposte. Avec Hakim Omiri, parce que c'est vrai que je trouve ça très drôle. On a le temps, c'est le samedi. Alors, diffusé sur la RTBF, le talk show à sketch présenté par Jérôme Devarzé et Adrien Vuiver, avec des séquences mordantes brocardant des personnalités politiques, tourne au phénomène. C'est vrai que je crois que c'est deux fois par mois. Ici, l'émission la plus drôle de France était belge. Pour en avoir le cœur net, direction Liège en Belgique, c'est là où je suis allé, moi. Hein, au sous-sol de l'un des sièges de la RTBF, de la télévision publique francophone. Dans le couloir qui mène au studio 41, j'y étais. Face à celui qui abrite les versions locales de The Voice, l'humoriste Fabien Lecastel est en boucle. Avec la voix de Gims, il chante à tue-tête Destinée de Guy Marchand. Destinée. Etc. Cette reprise est l'une des séquences marquantes du numéro enregistré mercredi soir du Grand Cactus, le talk show, orchestré par Jérôme Devarzé, le Laurent Ruquier du plat pays. Dans la loge maquillage, perruque, déguisement, attendent la vingtaine de personnes. Oh oui, il y a un travail de maquillage de fou. La vingtaine de personnages interprétés ce soir par la troupe de sociétaires des superstars outre-Kivre. Diffusé un jeudi sur deux. Ah ça, c'est un jeudi sur deux. Donc c'est deux fois par mois, à peu près. L'émission présentée par Jérôme Devarzé et Adrien Deviver est une institution en Wallonie. Hein, et le public est autant amusé par les quatre longs sketchs qui la rythment que par le fait de voir la petite bande endosser de nouveaux rôles ou reprendre leurs meilleurs personnages. Gros budget. Oui, un budget de télé. J'y suis allé, hein, je l'ai vu l'émission. Donc oui, budget. Gros budget d'émission de télé, quoi. Après, oui, ça coûte moins cher qu'un Dals, hein, tu vois. C'est pas super production. Gros budget, budget de télé. Ah, il est de retour. I want snow. Bon, je pense que l'historique, c'est un message, non? Oh, c'est décevant, il n'y a jamais d'historique, parce qu'on a envie... Attends, on va aller... Mais non, fallait pas l'épingler. Non, fallait pas le bannir, je voulais l'épingler. Attends, framboise, attends. Attends, il est où? Oh, je l'annule. Je peux l'épingler? Ah, je peux pas l'épingler. On peut pas épingler les utilisateurs suspects. Oh. Pourtant, ses propos sont pas problématiques. Oh, zut. Donc oui. Alors, c'est une personne qui revient tous les jours avec un nouveau compte, un nouveau pseudo. Pour écrire le même message. Tous les jours. Voilà. Imaginez le temps que ça prend. Recréer un nouveau compte. Voilà. Attendre le temps minimum pour pouvoir s'exprimer dans le chat. Je crois que c'est 10 minutes ou un truc comme ça, quoi. Tous les jours. Mais t'as pas de vie? Mais tu ne crois pas que ce temps, tu pourrais l'utiliser pour faire quelque chose, n'importe quoi, je sais pas. Collectionner des capsules de bouteilles ou marcher dehors, je veux dire. Tu non. Hein? Oui, jouer aux jeux vidéo, pour le coup, là, c'est un vrai. Ah, c'est dommage. Écoute, en tout cas, tu es toujours le bienvenu. Et bien à demain. Eh, ça fait du follow. Ça fait de la stat. Ça fait plus de followers sur la chaîne. Donc très officiellement, c'était quoi le pseudo d'ailleurs? Parce que ça change tous les jours. Le problème, c'est que je peux pas me rappeler parce que c'est le même message qui fait une dizaine de lignes, mais c'est jamais le même pseudo. Donc Hawaiian Snow, on verra bien demain ou après-demain. Merci du soutien à cette chaîne. Parce que ce faisant, tu augmentes le nombre de followers de cette chaîne. Et après, pour les OP. J'ai combien de followers, monsieur Etienne? Bon, j'ai un peu plus d'un million de followers. Bon, dont 900 000 Hawaiian machin. Mais ça, je le dis pas. Tu comprends? Quand je vends mes OP. Donc, merci du soutien. À demain pour rajouter un follower. Donc, je reviens à mon petite émission d'humour. Qui est effectivement une belle production. Cela marche parce qu'on est les derniers à faire ça. On n'hésite pas à mettre des perruques et à brocarder les personnalités poétiques. C'est un humour désuet, à contre-courant du stand-up, mais finalement, c'est nous les rebelles. Sourit Jérôme Devarzé, qui s'est fait repérer par ses chroniques piquantes à la radio. On va aller voir des extraits. Grâce aux réseaux sociaux, le format est devenu un phénomène aux quatre coins de la francophonie. On la regarde bien au-delà de la Belgique.
Les extraits publiés sur Facebook et Instagram dépassent systématiquement la barre du million de vues. Bon, ça se trouve, il y a 900 000 vues qui viennent du même gars, là. Donc, moi, je suis très prudent sur les stats. À coup de parodie mordante et bien sentie visant Emmanuel Macron, Donald Trump, Marine Le Pen, la bande du Grand Cactus fait rire les Français, une consécration pour tout Belge qui se respecte. Eh, les Belges, vous avez de la chance, en vrai. Au démarrage, on faisait principalement les sketchs sur l'actualité de notre pays, la Belgique. Puis, quelques années, on a des invités en plateau, souvent français. Voilà. Ce qui nous oblige à parler de vous. Mais il faut comprendre que nous, Belges, on suit tous la politique française sur TF1 ou France 2. Un de nos anciens premiers ministres pensait même que notre hymne national était la Marseillaise. Vous abusez quand même, les Belges. Vous avez quand même un premier ministre belge qui pensait que l'hymne de la Belgique, c'était la Marseillaise. Genre, je vous crois pas. C'est une blague, ça. Un de nos anciens premiers ministres pensait même que notre hymne national était la Marseillaise. C'est une vanne, ça. C'était un séparationniste. Il y a l'extrait vidéo sur YouTube de ce premier ministre belge. Et il le fait en live. Quoi? Yves Le Terme, il s'appelle. Il s'appelle Yves Le Terme. Alors, quelqu'un me dit c'est un peu exagéré, il parlait pas français de base, c'est un peu emmêler les pinceaux. Alors. Voyons cette histoire. Ça se trouve, c'est encore inventé, ça. On les connaît, les médias, hein. Tous les mêmes.
La fête nationale et le Tédéum à la cathédrale Saint-Michel et Gudule rencontrent sur place avec Yves Le Terme, le probable futur Premier ministre qui a une version toute personnelle de l'hymne national belge. Un Tédéum bruxellois auquel assistait aussi Yves Le Terme, le formateur, probable futur Premier ministre. L'occasion de lui poser quelques questions sur la Belgique et son histoire. Les réponses sont assez déconcertantes. Reportage Jean-Michel Wanlin et Christophe de Borsu.
Mais... Le Tédéum lance traditionnellement la fête nationale. Selon un sondage, un Belge sur cinq sait pourquoi cette fête a lieu le 21 juillet. Parmi les ignorants, le probable futur Premier ministre de Belgique.
Il paraît que les Belges ne connaissent pas bien la Belgique. Est-ce que vous savez pourquoi on fête le 21 juillet, le 21 juillet ?
C'est la proclamation de la Constitution ?
Non, c'est autre chose. C'est un rapport avec Léopold Ier.
Pardon ?
C'est un rapport avec Léopold Ier.
Oh, mais en vrai, le gars, il n'entendait pas les questions à cause des cloches. C'est les cloches, ça. Le mec n'entendait pas les questions, il a répondu n'importe quoi, je pense, non ?
Ça doit être la désignation de Léopold Ier.
Prestation de serment.
Prestation de serment, voilà.
Et la Brabançonne, vous la connaissez ?
Un peu, oui.
Allez-y.
Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est...
C'est vraiment la Brabançonne, ça.
Pardon ?
La Brabançonne, c'est vraiment ça.
Oh, je sais pas.
Yves Le Terme a-t-il voulu plaisanter ? Pas sûr, car quand à la fin du Tédéum, l'Assemblée entame la Marseillaise, pardon, la Brabançonne, il tente sa chance quelques secondes, puis plus rien. Pourtant, le texte était à disposition sur tous les sièges. Mais Yves Le Terme est très occupé, il téléphone même en plein office.
Bah, il appelle quelqu'un là. Je pense qu'il appelle un collaborateur en lui disant « Mais attendez, c'est quoi l'hymne belge ?»
À la sortie, sans doute conscient de sa gaffe à notre micro, il nous ignore.
Sur le terme de la Brabançonne, c'est pas encore tout à fait ça.
Le formateur...
Les journalistes, vous êtes vraiment... Hein ?
...retient ensuite amicalement avec son sans doute futur collègue Didier Renders. Puis, il s'en va rapidement. Pour éviter la longue file des voitures de personnalité, son chauffeur n'hésite pas à faire demi-tour dans une rue à sens unique. La police militaire...
Ah mais c'est du harcèlement là, hein. C'est du harcèlement. Hein.
...laisse faire. Cet après-midi, autre grand rendez-vous.
Ok, d'accord. Ouais, bon, ça va, ça arrive. Hein. Ah, les journalistes, vraiment. Hein. Vraiment. Bon, donc, c'était une vraie histoire. Ok, d'accord. Je pensais que c'était une fake news, moi, c'était tellement gros. Hein. Ce pilier du programme, donc l'artiste James Dino, est interrompu par les cris de Yann Stotz, moitié du duo Giraud et Stotz, avec sa complice Cécile qui singe pour la première fois Jean-Luc Mélenchon. Vous avez remarqué que quand il s'enflamme, il a un léger sursaut, rit-il en faisant des moulinets avec les bras. Cette semaine, le Tandem imagine une interview du leader de la France Insoumise par Léa Salamé, qui ne devrait pas passer inaperçue dans l'Hexagone. Tout comme la rencontre au sommet entre le tout jeune naturalisé Georges Clounet et la famille Tuche. Voilà. On fait de la parodie, pas de l'imitation, ce n'est pas grave si on n'est pas parfait, quand on a trouvé la musique du personnage, on met une perruque et hop, c'est parti, précise Cécile Giroux, qui agite son stylo pour singer la présentatrice du 20h de France 2. Clounet, c'est un personnage assez simple, faut juste maîtriser le petit mouvement de tête quand il parle, un peu la Sarkozy, ajoute le comédien Damien Gillard. C'est drôle. En regardant son acolyte Cody, qui est un goat, qui est incroyable, singer, alors Cody, l'humoriste là, belge, il fait un Trump qui est incroyable. Singer un Donald Trump qui a envahi la Belgique pour en devenir le roi, on se demande pourquoi diable le Grand Cactus n'est pas diffusé en France, ailleurs que sur TV5 Monde, qui propose des émissions en replay. Une de vos chaînes pourrait au moins proposer des extraits les plus internationaux, et si cette émission plaît, on pourrait carrément la faire en France. Observe avec malice Cody. Alors je crois savoir qu'il y a quelques années, Cody a voulu faire un pilote pour la télé française, peut-être pour M6, du Grand Cactus, mais ça n'aurait pas été validé parce que l'humour aurait été jugé trop, comment dire, corrosif, ou un truc comme ça, tu vois. Observe avec malice Cody qui a participé il y a quelques années à une tentative d'adaptation, c'était pour M6. Avec Alex Vizorek et Marie Portolano. Invité mardi dernier sur le plateau de Quotidien, l'équipe belge a sous-entendu que la 6 avait manqué de courage. Le pilote n'était pas très drôle, reconnaît-on le lendemain dans le sous-sol de la RTBF. Ici, pour une blague, on doit en référer à une personne. Là-bas, il y a toute une chaîne de validation. Comment tu peux faire valider une blague par 10 personnes? Ah non, vous pensez, ça ne peut pas marcher. Ah non, pas celle-ci. On ne peut pas vraiment rire de ça. Vous voyez? Ça ne marche pas. Une différence de méthode. Donc voilà pourquoi cette émission existe en Belgique et pas en France aujourd'hui. Et état d'esprit d'un autre pays à cran où les humoristes sont dans le viseur de la classe politique. L'humour devient hyper cadenassé chez vous, les Français. Des milliers d'associations réagissent sur n'importe quel sujet. Là, on est sur un débat de fond, peut-on rire de tout? Mais c'est ça le problème. Régulièrement, cette émission Le Grand Cactus, il y a des polémiques aussi en disant « Ah là là, celle-là, cette blague, elle a été ratée. Cette blague, elle a été ratée. Vous n'auriez pas dû rire de ça. Voilà. » Et eux, ils se défendent en disant « Ouais, mais il y a du déchet, quoi. » Des milliers d'associations réagissent sur n'importe quel sujet. Ici, la RTBF nous laisse faire tout ce qu'on veut. Elle nous pousse même à y aller un peu plus fort. C'est marrant parce que sur Nova, aujourd'hui, Nova, vous savez, qui a récupéré notamment les anciens de France Inter, et dont les audiences sont en train d'exploser parce que les gens sont partis là-bas et puis les humoristes s'en donnent à cœur joie contre les politiques et notamment contre l'extrême droite, qui est une de leurs cibles préférées. Les humoristes de Nova disent que non seulement la direction de Nova et les actionnaires ne les freinent pas, mais même les encourage, en mode mais lâchez-vous quoi. Donc voilà. Pour l'humour, le problème c'est que l'humour ça peut aussi parfois passer à côté, ça peut être raté, etc. Mais l'humour, il y a une condition sine qua non pour qu'elle puisse se développer, c'est la liberté quoi. Mais la liberté parfois ça fait grincer quoi. D'ailleurs on ira voir des extraits aussi de ce qui se passe actuellement sur Nova là, avec l'humoriste dont on a parlé tout à l'heure. Pour envahir la France, celui-ci compte désormais sur la scène. La bande du Grand Cactus montrera ses pics humoristiques au Zénith de Lille le 11 juin, un tour de force qui pourrait convaincre peut-être un diffuseur tricolore. On va voir les extraits ? On va voir les extraits, on va aller sur YouTube où il y a les extraits de l'émission Le Grand Cactus. De toute façon, ils ont une chaîne. Merci écrivain. Ouais, j'ai vu.
Le défilé militaire. Mais Yves Le Terme est absent.
Gravity la bête, c'est moi qui te remercie parce que t'as été super cool hier. T'inquiète, ça m'a fait très plaisir notre échange, merci. Et franchement, t'étais pas obligé de sub. Hein. Le Grand Cactus. Oui, alors voyons. Qu'est-ce qu'on a? Oh, tu vois, tu vas sur la chaîne YouTube du Grand Cactus, là, et t'as, chaque vidéo qui est vue parfois des millions de fois. Alors, Marine Le Pen, Patrick Sébastien, il y a 12 jours. Ça, c'est peut-être la dernière. Il y a des vidéos, il y a des shorts. Trump au secours d'Emmanuel Macron, il y a un mois. Alors les vides, ça c'est les dernières. Oh, il y a Moziman qui a été invité. Ah non, ils ont imité Moziman. Alors Moziman, j'adore. Vous savez, c'est le créateur de contenu français, DJ Mozi, avec qui j'ai fait un truc il y a pas longtemps. Et ils ont même imité Mozi, c'est incroyable. Ah, mais il devait être invité. Ah, mais il était invité. Et ils l'ont imité. D'accord, ok. Ah, génial. Ah, ben on pourra parler de ça. Ok. Le scandale des poupées Shein. Ah oui, c'est les poupées les pédophiles. Tiens, bah ça, c'est un bon exemple, ça. Comment tu... Est-ce que tu peux faire de l'humour sur les fameuses poupées pédophiles de Shein? Bah, manifestement, ils ont fait un truc. Hein. Tiens, peut-on rire de tout? On va se regarder plein de petits extraits. C'est pas mal, en vrai. Hein, c'est pas mal. Et on a pris un extrait au hasard. Hein. J'ai pris un des derniers extraits, un des moins vus. C'est fou. C'est drôle. Qu'est-ce qu'on a là? On a plein de shorts, des ITV, les invités, les duplex, les séquences parodiques. Donc là, on a la parodie de Mozy, en vrai, c'est drôle. Jean-Claude Van... Ah oui, il y a... Alors attends, si on trouvait... Cody, c'est un... Cody, il est incroyable. Cody en Trump. Éric Zemmour en Cody. T'as envie? 3,7 millions de vues il y a 4 ans. Ça se regarde, ça, peut-être. Là, les sketchs... Cody, les sketchs classés par humoriste. On va sûrement trouver... Oh, c'est bizarre, ça. Classement, là. Incroyable. Bon, on avait Zemmour, là, qui semblait avoir eu son petit succès. Il est là. Cody en Trump, que je préfère. Donc, moi, ouais, je vous trouve Cody en Trump. Cody en Trump, il est incroyable. Cody en Trump. Vidéo populaire, ça va marcher, ça. Jean-Claude Van Damme, Depardieu, Éric Zemmour, Belmondo, Neymar. Il faut qu'on trouve Trump. Il est où? Il est où? Je ne le vois pas, c'est impossible. Fabrice Luchini, Céline Dion. Mais il est où, Trump? Johnny Depp. Il a fait Johnny Depp. Tu connaissais pas Framboise? Le mec est une star en Belgique. Hein. Fred et Jamy, c'est pas sorcier? Je crois qu'il a fait Trump. Hein. On va chercher Cody Trump. Hein. Je crois. Hein. Et en plus, pour l'avoir du coup rencontré, il est d'une gentillesse extrême. Incroyable. Et alors, quelqu'un me disait que le Grand Cactus avec Mozy était incroyable. Et quand ils ont un invité, il imite. Donc moi, j'ai été imité, voilà, un petit peu, c'était mignon. Et ils ont imité Mozy. Et Mozy, c'est un des derniers invités. Et il est là. Donc Mozyman, DJ français, créateur de contenu, streamer, youtubeur. Et là, il est imité. Donc c'est pas Mozy est là, dans le public, je pense qu'il est par là. Et il est ici aussi. Imiter. Donc c'est comme ça deux fois par mois, t'as ces gars qui font des... Il y a des imitations, mais pas seulement, t'as des éditos, l'émission elle est riche, je pense qu'elle dure au moins 1h30. Je crois pas qu'elle soit en direct, je crois qu'elle est enregistrée dans les conditions du direct. Oui, c'est ça. Et en vrai, c'est pas mal. Et donc elle est pas diffusée en France, alors avec un bon VPN tu la chopes bien sûr, elle est diffusée sur TV5 Monde aussi. Et pour finir sur cette... donc vous irez, sur les réseaux sociaux, vous arriverez à trouver des trucs. Quoi. Écrivain me dit, après quelques de recherche sur le site Ovio, qui nécessite un VPN, mais sans VPN, vous pouvez voir toutes les émissions sur tv5monde.com. Merci mon ami. Merci The Creeper. Merci pour ton raid. Voilà. Et puis tout à l'heure, puisqu'on parlait d'humour à la télé, eh bien certains me disaient, mais Samuel, on parlait d'un humoriste qu'on voit beaucoup sur Nova, là, et que je vois beaucoup... Dans ma timeline sur TikTok notamment. Voilà. Et rappelez-moi, c'est Hamidi, c'est ça? Rappelez-moi son prénom. C'est Hakim. Hakim Omiri. Voilà. Alors moi, je le connais pas bien. Je tombe juste sur ses clips et il est déchaîné. Alors comment est-ce qu'on... est-ce qu'on va trouver ça sur YouTube? Je suppose oui. Et notamment, j'ai l'impression que c'est sur Nova. Voilà. Dans la riposte. Voilà. Qui est une émission de Nova, je suppose. Là, il y en a une il y a 3 jours, par exemple. Ça parle de Pascal Praud. Bon. C'est forcément bien. Et ça, c'est un... Et d'après ce qu'on voit, les audiences de Nova ont explosé depuis que Nova a donné un peu carte blanche à toute une série d'humoristes. Regardons. Poste. Bon, c'est très éditorialisé, c'est très politique, hein, mais c'est souvent très bien écrit.
Vous l'avez sûrement tous vu sur les réseaux sociaux, tout le monde a déjà réagi dessus, mais on ne pouvait pas passer à côté de cette pépite, on écoute.
Manifestement, les policiers font leur travail et les gens en face sont blancs. Vous voyez, et c'est... Non, mais c'est important de le dire, parce que c'est pas facile pour les policiers.
Bon, c'est vrai que c'est... Bon, on traite assez peu l'actualité médiatique sur cette chaîne, donc cette phrase, c'est pas facile pour les policiers de faire le travail, puisqu'ils ont en face d'eux des manifestants blancs, Pascal Pro, donc c'est pas de l'IA, hein, c'est un truc qui a été prononcé il y a quelques jours. C'est vrai qu'on ne l'avait pas traité sur cette chaîne. Donc, ici, c'est traité, chez Nova.
Merci CNews. Merci Pascal Pro de dire à la télévision qu'il a un biais raciste dans la police. Merci de dire, oui, bah, quand c'est des noirs ou des nuls, c'est quand même plus agréable de taper dessus. Merci, bah, tout est incroyable, hein. Et vous savez pourquoi c'est incroyable ? C'est parce que pour la première fois, vous avez fait votre travail et vous avez dit la vérité.
Ils sont obligés de s'interposer en plus avec des gens de qui ils partagent parfois même les convictions ou les
origines.
Les origines.
Ouais, ouais. Et puis quand tu partages les mêmes origines, souvent tu partages les mêmes convictions. Convictions qui sont 1. Il y a trop d'Arabes en France. 2. Il y a trop de Noirs en France. 3. La gauche, LFI, islam, pâté, cochonriette. C'est ça que tu voulais nous dire, Pascal ?
Ils font leur job, les policiers. Et croyez-moi, c'est pas facile pour eux. Et c'est ça qu'il faut dire, parce qu'il y a de la violence, bien sûr, qu'il y a de l'agacement, il y a de l'énervement.
L'agacement et l'énervement, c'est uniquement quand t'es blanc et que tu possèdes un tracteur. Ah, si t'as la peau légèrement hâlée, c'est de l'ensauvagement, ça n'a rien à voir. Je sais pas si Pascal, il est dans un mea culpa ou qu'il se rend pas compte qu'il est en train d'avouer que sur CNews, que la police traite les événements sociaux avec une différence en fonction de la couleur et l'origine sociale des personnes. Je sais pas s'il s'en rend compte. Je sais pas s'il est complètement con ou si c'est un génie. On saura jamais, on saura jamais. J'ai une petite idée, mais je vais pas la dire parce que j'ai pas le droit. Ah, si le mec a les yeux bleus, il s'appelle Jean-Pierre, Pascal sort les violons. Si le mec s'appelle Mamadou, Pascal sort le lance-flammes et demande « Pourquoi on n'a pas encore établi la peine de mort pour les vols de canettes ?» C'est ça l'information ? Non mais je pose la question ! Pascal, il est à deux doigts de nous sortir un nuancier Pantone pour expliquer qu'à partir de quelle teinte de beige le policier a le droit de taper en ayant une érection. Mais vous savez... Vous savez, ce qui me désole dans toute cette séquence, c'est que Pascal, il assume pas.
Des esprits mal intentionnés ont coupé 47 secondes de l'heure des pros de ce mardi. Et ces esprits mal intentionnés ont voulu instrumentaliser une séquence sortie de son contexte pour me faire dire l'exact contraire de ce que j'ai exprimé ce matin.
Non ! Ah, on me la fera pas deux fois le coup de « je disais le contraire ». J'ai retenu ma leçon. Non, non. Tu voulais pas dire ça ? Ah ouais ? Vas-y, tu voulais nous dire quoi en vrai ?
La police effectue son travail dans des conditions difficiles et jamais en fonction des origines ou de la couleur des uns et des autres.
Mais t'es un menteur ! Non mais faut arrêter la post-vérité un moment. Suffit pas de dire « j'ai pas dit ça » pour annuler un truc que t'as dit alors qu'on a les images. Mais ça devrait être interdit de faire ça. T'es journaliste et tu mens. Je sais pas... Peut-être que je rigole trop en regardant... Peut-être qu'on rigole trop en vrai en regardant ces séquences, hein. Alors on va la remettre.
Les policiers font leur travail et les gens en face sont blancs. Vous voyez, et c'est... Non mais c'est important de le dire. Parce que c'est pas facile pour les policiers. Voilà, ils sont obligés de s'interposer en plus avec des gens de qui ils partagent parfois même les convictions ou les...
origines.
Les origines.
Voilà, je l'ai pas coupé. T'as jamais dit, vous voyez, les policiers font leur travail même quand les gens sont blancs, ce qui n'a rien à voir. C'est pas les gens qui sont mal intentionnés et qui ont fait un montage de ce que t'as dit, c'est juste toi qui as dit la vérité pour la première fois, et comme tu réalises que c'est grave, tu retournes ta veste de caca remplie de mensonges. Ça suffit le baratin, nous on veut des gens qui assument, comme ça.
Donc bon, c'est ce que j'ai dit, j'allais dire.
Voilà, ça c'est un homme.
Aider comme ça, il y en a plein. Aider comme ça, il y en a plein. On peut peut-être s'en faire une autre d'ailleurs. Attends, il y a une chaîne. Donc, on est sur la chaîne. On est sur sa chaîne en vrai. Voilà, pardon, moi j'aime pas faire de réac parce que je trouve que. Là, par exemple, j'ai pas demandé l'autorisation à Hakim Omiri de regarder. Donc, ça, j'aime pas trop ça. Vous savez que je fais pas de réact, moi, trop. Sauf si j'ai. Mais là, je trouve que le contenu est génial. Donc, une forme de promotion et de publicité. Donc, je me permets et je m'excuse auprès d'Hakim Omiri de pas avoir demandé l'autorisation. Mais en vrai, là, je fais une exception parce que je trouve que c'est vraiment très, très fort. Comment il classe cette... la riposte, voilà. Sur l'ICE, la police anti-immigration. Là, il est sur l'antenne de France Inter. On dirait non. Il y a 5 jours. Ah non, c'est Nova. Ah bah oui. Ouais, mais je reconnais des visages de France Inter, c'est pour ça. Bah oui. Et oui, c'est Nova. Oui, puisqu'il y a beaucoup d'Inter. Bon, on regarde ça peut-être. Hein. ICE, la police qui dérape. Oui, Radio Nova qui donne carte blanche à ceux qui ont pris des cartons rouges sur d'autres radios. Oui, Benny Ben. J'ai lu une interview il y a quelques jours où les humoristes, notamment Jean-Michel Barré, là, explique ça en disant que la direction de Nova leur laisse une totale carte blanche et même leur dit mais allez-y quoi, exercez votre liberté de parole. Et d'ailleurs il y a des plaintes, il y a des poursuites et la direction est en mode mais allez-y, nous on assume quoi. Donc c'est assez intéressant comme phénomène.
Et il nous a rejoint.
Ok.
Autour de la table, celui pour qui la riposte est un devoir de l'homme, Hakim Omiri.
Salut les gens. Salut. Alors aujourd'hui, je viens vous parler des États-Unis de Trump avec le service de la ICE. Et c'est pas un service qui t'amène des glaces. D'ailleurs, même à la plage, si t'es un peu bronzé, ne t'approche pas du camion de la ICE. Le magnum dans le camion, il est pas au chocolat blanc et il tire pas à blanc non plus. Leur mission se résume en deux mots, arrestation et expulsion. Moi, je le résume en un, racisme. Ah, ils sont tellement racistes, ils ont déporté des latino-américains en règle. Apparemment, dans latino-américain, c'est latino qui l'emporte. C'est comme le masculin dans la langue française. En France, on a inventé l'écriture inclusive. Eux, c'est la déportation inclusive. Bah, ils embarquent tout le monde sans distinction. Les contrôles ne se font que au faciès. Et c'est la merde même avec les papiers. Miguel Dos Santos, c'est pas américain ça. Bah oui, mais je viens de vous donner une carte d'identité américaine. Ouais. Et vous préférez les burritos ou les flingues? Les burritos. Attends, mon fuck! Ouais, ça déconne pas. Hein. Alors, évidemment, j'ai vu une vidéo d'un natif américain qui se faisait embarquer par des agents de la ICE. Et à ce moment-là, j'étais là, bah, y a faute, là, clairement. Hein. C'est littéralement le voleur qui est en train de dire au propriétaire, c'est à vous, ça? Hein, vous avez les papiers? Cette histoire de ICE a pris une grande ampleur semaine dernière car ils ont assassiné René Good, une jeune femme blanche. Et là, ça change tout. Ah bah s'il y a un truc que j'ai appris dans l'histoire moderne, c'est que tant que ça concerne pas les blancs, c'est pas grave. Donc, c'est pour ça que la police d'ailleurs tape pas sur les agriculteurs. Pour le moment, c'est pas grave. Un agent de la ICE lui a tiré 3 balles dans la tête pour l'avoir frôlé à 10 km/h avec sa voiture alors qu'elle partait. Bah oui, mais le froc du gars, il a failli être froissé. Hein. Non, mais on peut rigoler avec plein de choses, mais pas avec le style. 10 km/h, vous rendez compte, il a dû voir sa vie défiler mais tout doucement. Ouais. Comme nous avec le quinquennat Macron. C'est long. Oh là là, ça fait 28 ans, non? 28 ans. En ressenti, c'est ça. Ouais. Avec Macron, faut compter en année de chien, comme lui c'est un gros C'est un chef d'État. Du coup, l'administration Trump, au lieu de mettre à pied le keuf, voire le foutre en tôle, parce que bah on peut rêver, comme là il a tué une femme blanche, peut-être qu'il peut aller en tôle. Non, je déconne. Bah c'est une femme, ça compte pas. Il y avait un piège. Comme tout bon assassin, le tireur a aussi sa cagnotte qui s'élève à 1 million de dollars actuellement. Toute ressemblance avec un.
Alors, je pensais avoir toutes les infos sur la mort de cette femme. Je savais que le policier n'avait pas été poursuivi, qu'il n'avait pas été suspendu. Le policier américain, auteur des 1,6 million actuellement, qui n'est 22. Alors ça, je ne l'avais pas. Le gars qui a tiré 3 balles sur la mère de famille, là. Oh, pff, ok.
notre pays. C'est le pur hasard. Pour légitimer ça, ils ont accusé René, qui venait de déposer ses enfants à l'école, d'être une terroriste intérieure. C'est quand il y a une véranda, je crois. Je sais. Terroriste intérieure, je sais pas. C'est comme le terrorisme extérieur, mais tu bois du matcha avec du lait à l'avoine et t'écoutes la riposte ou la dernière. Je pense que c'est ça. Trump a dit la raison pour laquelle cet incident s'est produit, incident à deux doigts de dire incivilité. Ouais. C'est que l'extrême gauche menace, agresse et cible quotidiennement nos agents de l'ICE. Ils parlent comme Darmanin. Ouais, bah ils s'inspirent des meilleurs, je crois. Hein. Les derniers mots de René ont été « C'est bon mon gars, je t'en veux pas ». Les mots du tireur ont été « Fucking bitch ». Et oh, ça va le terrorisme de gauche là ? Ouais, sachant que l'extrême gauche aux États-Unis, c'est l'équivalent des socialistes en France. Hein. Ah bah ça menace pas, ça trahit, c'est tout. Je sais pas comment ça se fait qu'ils en ont autant peur de la gauche, tu vois. Je crois que les droitards, ils sont élevés en leur disant que la gauche, c'est le loup. Oui, je pense qu'ils grandissent avec des parents qui leur disent « Si t'es pas sage, la gauche va venir te manger ». Je pense que c'est ça. Et vous avez remarqué, personne ne parle de la ICE en France. Pourquoi ? Parce que c'est un peu le rêve de tous les droitards de notre pays, hein. Mais ils peuvent pas le dire, parce que là, il y a des gens qui commencent à les comparer à la Gestapo, alors que ça n'a rien à voir. La Gestapo, c'est la police allemande nazie. Non, non, ils agissent comme la police française de 42. Ouais, eux, ils chassent les bronzés comme des nuisibles, alors que la police française chassait les juifs comme des nuisibles. Ça n'a rien à voir. Et puis à l'époque, les juifs, ils étaient obligés de porter une étoile jaune. Trump, il a pas demandé aux latinos de porter une étoile jaune, parce qu'il connaît ses agents de la ICE. Ils auraient croisé les latinos, ils auraient dit « Shérif ». Il fonctionne. Il fonctionne exactement de la même façon. Rafle, arrestation et convoyage. Et toujours avec des policiers qui disent « Je fais que mon travail ». L'histoire ne se répète pas, elle bégaye.
C'était beaucoup plus sur un édito hein, qu'un sketch, vous l'avez compris. D'ailleurs, il cherchait pas à faire rire là. Pour le coup, c'était un édito, tellement édito que j'ai appris des infos pour la cagnotte de plus d'un million, 1,6 million, vous m'avez dit à ce jour pour le policier, ça je ne savais pas quoi. Voilà. Donc, réflexion intéressante sur l'humour en Belgique avec nos amis du Grand Cactus, l'émission là. Et alors pour le coup, je trouve que c'est quoi un édito ? Un édito, c'est un article d'un journaliste ou dame où le journaliste donne son avis. Et là, on est beaucoup plus dans cet exercice de l'édito, pour le coup, où je pense qu'il cherche beaucoup moins à faire rire qu'à faire réfléchir. Alors que avant, où il se moquait un peu de pro, on était un petit peu plus sur le... Par exemple, l'étoile jaune avec le shérif, là, pour le coup, c'était drôle. Quoi. Mais c'est assez... En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça fonctionne, ça cartonne même. Et que c'est un mélange des deux, exactement. Ouais. Et ça marche très très fort. Voilà, et donc c'est intéressant. Alors, c'est très engagé, mais pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir la riposte et allez écouter Nova. C'est vraiment du bon boulot, quoi. Allez, un dernier sujet pour finir sur quelque chose de très très léger. En fait, maintenant je me rends compte que pas du tout, puisqu'on va parler de café gourmand. Pour le coup, c'est pas très très léger. Le débat. Exactement, comme dit Sugar dans le chat à l'instant, le débat en lettres majuscules. C'est le débat. C'est-à-dire que tout ce dont on a parlé jusqu'à ici, pendant 2h53, ce n'est rien à côté de cette question, de ce débat. Est-ce que le café gourmand est, oui ou non ? Attention, parce que là, il faut être prêt, parce qu'on est sur quelque chose d'assez anxiogène, je dirais, et assez dur. Est-ce que, oui ou non, le café gourmand est un dessert ? C'est ça, ce sujet essentiel que je voudrais évoquer avec vous maintenant. Voilà, le chat est parti, oui, non, il n'y a pas de débat, c'est le best dessert, là, je vous vois. On va faire un sondage tout à l'heure. Voilà, c'est le point culminant de ce stream, exactement. Écoute, je ne suis pas loin de penser que c'est peut-être le point culminant de ma carrière journalistique. Voilà. J'en ai traité des sujets sur Radio France Internationale, France 3, Europe 1, Canal+, iTélé, France 2, France 3, France Info... Je ne pense pas. Oui, je prends des risques. Shidoshin, je sais. Je ne pense pas avoir déjà évoqué sujet plus important que celui-ci. Voilà. C'est le climax de 30 ans de carrière. Let's go. Splendeur et misère du café gourmand. Chéri par les indécis et les pressés. Oh,
un dessert. Oh, allez, un petit café gourmand. Et il est pressé. Un dessert, ouais, je sais pas, café gourmand. Ok. Parce qu'en plus, je suis acteur. Méprisé par les fins gourmets, ce dessert. Je m'étouffe. Très mauvais acteur. Putain, vous avez pas l'article en plus. Vous avez pas l'article. Attends, je me lance un café pour. Parce que moi, je soigne mes quintes de toux au café. Bougez pas. Ceux qui ont des bons yeux, vous pouvez commencer à lire l'article. Je me suis lancé un café.
Un café à 7h ?
Oui, parce qu'il y aura peut-être un petit stream God of War ce soir. On s'est fait un petit stream God of War de 4h hier. J'ai renoué avec le plaisir de Kratos. Hein, c'était vraiment très bon. Peut-être remettre ça ce soir. Peut-être pas aussi tôt qu'hier, mais... Alors, parlons de ce sujet sérieux et compliqué à la fois. Ça, c'est pas mon ventre. C'est le café qui est en train de couler. La France est divisée. La France est divisée, écrit le Figaro, et elle s'écharpe continuellement sur le café gourmand. Sa simple mention dans un groupe d'amis sur WhatsApp défrise. Je ne sais pas si vous, avec vos amis sur WhatsApp, vous parlez de café gourmand, mais manifestement, ici, oui. Le café gourmand, c'est pour celles et ceux qui n'aiment pas les desserts, on est d'accord. Ou bien, je préfère une grande mousse au chocolat à partager plutôt qu'une verrine de panna cotta sans goût et un macaron surgelé. Quand les plus indécis louent évangéliquement ces petites bouchées, c'est le meilleur compromis. Tu as tous les desserts en un. Qu'on l'adule ou qu'on le déteste, le café gourmand s'est imposé dans le paysage de la restauration française et son origine n'a rien de secret. C'est tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le café gourmand sans jamais oser le demander, c'est maintenant, c'est dans l'article du Figaro. Et pour lire un article sur le café gourmand, il faut un café. Attention, ce genre de prouesse, à la fois éditoriale et technologique, ne sont pas à reproduire à la maison. Ce spectacle vous est proposé par un professionnel. Ça fait 30 ans que je fais ça. Ne faites pas ça comme ça à l'improviste. Vous pourriez vous blesser. Je sais ce que vous dites. Je sais ce que vous dites. Mais où trouve-t-il toute cette énergie ? Un jour, je vous dirai le secret. Ça naît en 95. En 95, le premier café gourmand est servi dans toutes les enseignes françaises à la Criée, chaîne de restauration de fruits de mer, de poissons. Je connais la Criée, j'y étais, moi. Il est à sa naissance composé d'un expresso autour duquel gravitent trois petites bouchées sucrées. Un fromage blanc, une pâtisserie chocolatée type moelleux ou fondant et une salade de fruits dont on vient à bout en quelques coups de cuillère. Quand la Criée est venue me demander conseil, l'équipe était face à un problème récurrent pour toutes les adresses de l'époque, comment vendre plus de desserts à une période où le sucré était boudé. Relate son inventeur, parce qu'il y a un inventeur... Qu'est-ce que tu racontes, juste DJ ? Il faut que tu explicites ton dernier message. Il y a un inventeur du café gourmand. Il s'appelle Monsieur Boutboul. Non, c'est pas Monsieur Gourmand, c'est Monsieur Bernard Boutboul. Bébé. Les vrais amateurs de café gourmand ne sont pas des fans de Brigitte Bardot, ce sont des fans de Bernard Boutboul. Président de Gira, cabinet de conseil pour la restauration. Le café gourmand a été pensé, les gars, dans un bureau, par des gars dont c'est le boulot d'inventer des trucs. C'est un cabinet de conseil pour la restauration. Voilà. Maintenant, quand je vous dirai bébé ici, eh ben, c'est pas Brigitte Bardot, c'est Bernard Boutboul. Et il explique, l'inventeur, voilà, je me suis inspiré des restaurants étoilés où on sert cérémonieusement de petites pâtisseries. Après le dessert, le café gourmand a trouvé son sens, une version populaire des milliardistes gastronomiques. Est-ce que vous saviez que le café gourmand a été inventé par un Français, bébé, Bernard Boutboul, en 1995. Voilà. Non, vous ne le saviez pas. Inoubliable bébé, exactement. Et c'est cette chaîne Twitch qui vous l'apprend. Renifleur de paix, oui, mais j'ai déjà vu un reportage là-dessus. Non, tu viens de l'apprendre. Tu inventes. Fake news. Yo, fake news. Vous inventez. J'ai déjà vu un reportage, Aleph ? Non, vous inventez. C'est moi qui vous le dis. Voilà. Grâce à Castelopez. Non, vous inventez. Je continue donc.
Vous arrêtez de me contredire, par contre, s'il vous plaît. Merci. Si l'idée fait timidement son chemin au début, ça ne marche pas trop fort. C'est à partir des années 2010 que le Café Gourmand conclut les repas de près d'un restaurant sur deux. Il y en a partout. Hein, et c'est toujours le cas aujourd'hui, précise Bernard Boutboul, notre bébé à nous. Hein, après avoir regroupé les données sur tout le territoire. Le Café Gourmand, il est partout. À la Riotte, brasserie parisienne entre Saint-Lazare et la Madeleine, le chef s'appelle Johan Chapuis, regarde attentivement ses comptes. Le verdict est sans appel sur la ticket de caisse. Chaque mois, c'est le deuxième dessert le plus commandé après son île flottante. Il faut dire que sa proposition en jette, non pas trois, mais quatre, vous vous rendez compte. Quatre items faits maison qui débarquent sur une ardoise. Faits maison ! C'est pas toujours comme ça. Tom Thompson écrit « Sam, tu n'es pas le centre du savoir. » Tom Thompson, tu as un clic droit du Bandef. Un pain perdu, un riz au lait aux pralines roses, une mousse au chocolat servie à la cuillère et un financier bien beurré. Et c'est très important, le bien beurré. Parce que parfois, je pense que c'est un des soucis de notre société moderne et de nos sociétés occidentales. On ne beurre pas assez. Il faut beurrer. Ouais, il faut savoir beurrer. Exactement. Voilà, il faut aimer se beurrer. Alors, vous prenez des exemples, la biscotte, le financier. Je vois qu'on est sur la même longueur d'onde. Ok. Donc le chef dit, c'est la régalade, quoi. Alors, fait maison, oui. Et peut-être que c'est ça qui peut nous mettre d'accord aussi. Fait maison, oui. Hein, le Café Gourmand peut se révéler plus exigeant qu'un dessert classique. Chez Rive, né au bistrot du 11e, Paris. Le gérant Thomas Cassagne le proposait midi et soir et puis s'est ravisé à l'heure du dîner. C'est un peu plus compliqué à envoyer qu'un dessert classique parce qu'il faut faire plusieurs desserts. Voilà. Il faut que le bar et la cuisine se coordonnent pour que ça marche, blablabla. C'est beaucoup de boulot. Quand c'est bien fait, quoi. Alors, il y a le fait maison. Hein, et puis il y a ce Café Gourmand que vous connaissez. Vous savez le Café Gourmand que vous commandez dans un restaurant, et puis deux mois plus tard vous allez dans un autre resto dans une autre ville et vous avez le même Café Gourmand. Ah, Sugar, exactement. L'entreprise Métro, qui est une entreprise grossiste d'alimentaire pour les restaurateurs, ayant bien senti qu'elle ferait recette avec ce dessert, a proposé dès les années 2000 des pâques à réchauffer, mini moelleux chocolaté, mini tarte tatin vendue par quarantaine, panna cotta en briques. Toute une panoplie déjà prête à l'emploi, à la marge très intéressante. Exemple, 0,50 centimes le moelleux en prix de revient quand on sait que le Café Gourmand est vendu actuellement autour de 11 euros. Voilà. Qui ternit malheureusement l'écart de nombreux bistrots et brasseries de l'Hexagone. Vous connaissez ça? Vous connaissez? Voilà. Et là, il y a un chocolatier breton qui raconte une expérience comme ça dans une brasserie parisienne. Voilà. C'était lamentable, immangeable, pourtant j'adore ce dessert. Voilà. Et du coup, lui, il s'est mis en colère. Vous savez ce qu'il a fait? Il a lancé un championnat du monde, un mondial de Café Gourmand. Il s'appelle Stéphane Hénaud. Voilà. En 2021. Bon, première édition, timide. 6 candidats. Bon, ça commence doucement. Mais 4 ans plus tard, ça a pris un petit peu avec un jury et tout. 12 candidats. Voilà. Donc il y a des championnats du monde de Café Gourmand. Donc maintenant, on en vient à la question que je voulais vous poser, qui vient clore 30 ans de journalisme. Je vais vous poser la question et je pense que après la réponse à cette question, on pourra mourir, mais plus tard possible, bien sûr. C'est cette question que je veux vous poser. Chat adoré, communauté adorée, le Café Gourmand est-il un dessert? Tu vas passer sur CNews, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre, voilà. Moi, je pense qu'à un moment, il faut assumer. Voilà. Moi, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de la liberté d'expression. Je suis prêt à prendre des risques. Donc, je n'hésite pas à vous la poser. Le Café Gourmand est-il? Et si je dois être poursuivi en justice pour ça? Et si je dois être traîné dans la boue par certains médias? Eh bien, tant pis. No pasaran.
Oui, c'est un dessert. Non, ça n'est pas un dessert. Je ne sais pas. Vous avez 2 minutes. Le sondage est en haut du chat. C'est parti. On est fou ici. On est fada. Et c'est parti. Le débat, il a lieu dans le sondage, mais aussi dans le chat. Hall blanc à l'instant. Le café gourmand est un dessert pour les fragiles. Non, ce n'était pas un dessert. Malo et Luna. Dans la bouille en string ficelle. Non, Telos. J'aime pas le café, je vote pas. Tu peux commander un thé gourmand. Raymond et Wisp. Julien Lafontaine, oui, je confirme, tu arrives au moment chaud. Et si on s'en fout, tu dis je sais pas. Techniquement, ce n'est pas un dessert, c'en est plusieurs. Ne fais pas le malin, Ximal. Parce qu'on n'aime pas ça ici. C'est un dessert plus plus. Un Irish coffee gourmand, ça compte. Mais non, c'est pas ça, Gomarmar. Tu suis, bordel. J'ai voté non car ça a été inventé par un marqueteux et pas un vrai pâtissier, m'a dit Renifleur de Paix. J'ai pas d'avis, je ne bois pas de café et j'ai jamais essayé de trucs gourmands. Lolo Kuhn. Tu n'as jamais essayé de trucs gourmands dans ta vie. Tu n'as jamais essayé de trucs gourmands. Gourmand. Tu n'as jamais essayé un truc gourmand dans ta vie. Jamais. Un truc gourmand. Ouais. Hein ? Hein ? Pardon. Ok. Alors, je précise le sens de la question. Il reste 30 secondes pour Yoki no Kun. Mais ce serait quoi ? C'est pas un dessert ? Quelle définition un dessert ? Non, parce que les gens, les puristes du dessert disent c'est pas un dessert, c'est un truc que tu prends quand tu sais pas quoi prendre, quand t'es pressé. Parfois, c'est industriel. C'est le dessert de ceux qui sont pas les amateurs de dessert. C'est ça, en fait, le débat. Je pensais que vous aviez compris. Faut tout vous dire, bordel. Peu plus, moi. Voilà, Asno est en colère. Voilà, il a sorti sa fourche et il écrit « Les puristes, vous nous faites chier, en fait. » Hop, sondage. Voilà les résultats. Mesdames et messieurs, je ne veux pas regarder. Le suspense est incroyable. Voilà, je vais enlever mes doigts de mes yeux, je veux dire. Et on va regarder ce sondage ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quel a été le vote ? Est-ce que le café gourmand est un dessert ou pas un dessert ? Voilà. Je suis plus excité, plus hypé, plus frénétique même qu'en 1980, quand le visage du nouveau président de la République s'est affiché sur les écrans français, pixel par pixel. C'est un dessert à 68%. Voilà. Ce n'est pas un dessert pour 26%. Et vous n'êtes que très peu à ne pas être concerné. Certains ont fait les malins. Certains ont fait les malins. On dit, ouais, je m'en fous de ce débat et tout. Vous n'êtes que 6% à estimer que ça n'est pas un débat. Voilà, 68%. Vous pensez que c'est un dessert. Voilà. Bah, je crois que, voilà. On est au bout du au bout du bout de l'info. Je ne sais pas si on se rend compte de la dinguerie que va soulever ce résultat. Écoutez. Je pense qu'il y aura un avant et un après. Je sais. Si le chaîne, je suis peut-être allé trop loin. Peut-être que cette chaîne ne reviendra pas. Peut-être qu'il n'y aura pas de simple demain soir à 20h. On ne sait pas. Peut-être que certains vont s'organiser pour que je ne puisse plus parler. Voilà. Mais à un moment, il faut savoir se battre pour ses idées, ses convictions, pour la liberté d'expression. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Quoi qu'il arrive, si je disparais demain, voilà, sachez que la version officielle sera fausse et qu'on vous mentira. Vive la liberté, vive la France. On fait un réel, les amis. Merci d'avoir accompagné dans cette revue de presse des bonnes nouvelles. C'était cool de vous retrouver. Voilà. On fait les foufous parce qu'on sait que l'actualité elle est anxiogène, elle est un peu dure, donc c'est bien de temps en temps de dire des bêtises. Merci de m'avoir accompagné. Est-ce que ça arrive sur un petit stream gaming ce soir sur Kratos, sur God of War, on verra. Je vais voir. Je vais d'abord rejoindre ma famille, 18h27. Je pense que... les enfants vont pas tarder à rentrer pour dîner. Et on va raid qui ? Quoi, quand, où, comment ? Mais où est donc Ornica ? Merci Draco. Astom, je pense que c'est un des sweats que tu peux trouver sur la boutique du Gorafi. En vrai, je crois que c'est vraiment des goodies du Gorafi. Je crois qu'ils les vendent. Hein. Qui est en live? Ouais. Oui, bah oui, pourquoi pas. J'ai vu des propals dans le chat qui me vont bien. Je regarde parce que j'ai beaucoup, j'ai littéralement 50 personnes que je suis qui sont là actuellement. Donc je regarde aussi ceux qui n'ont pas trop de viewers aussi pour donner de la force. Moi. Vous voulez voir Emilien? On m'a proposé Emilien dans le chat. Emilien le GOAT de la culture générale. Il est sur GeoGuessr. C'est pas mal hein. Allez, on va voir Emilien, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait un petit coucou. Voilà. Et c'est cool que des personnalités comme ça soient sur Twitch également. Let's go. Emilien Twitch. C'est trop mignon parce que la chaîne d'Emilien sur Twitch s'appelle Emilien Twitch. C'est incroyable en vrai quand on y pense. C'est parti. Je vous retrouve sans doute ce soir pour du God of War. Si vous ne voyez pas, c'est que on aura voulu me couper le sifflet et m'empêcher de dire la vérité aux Français. Mais je ne me tairai pas. Bonne soirée. Vive la France. Vive la République.